Good afternoon. My name is Deborah Freeman.
Bonjour. Bonjour à tous. Je suis Deborah Freeman et au nom du comité d'action politique de Lyndon LaRouche, je vous souhaite la bienvenue pour ce webcast. Je pense que la plupart d'entre vous savent que Lyndon LaRouche va également avoir un autre webcast 2 jours après l'investiture de Barack Obama. Et ce webcast du 22 se tiendra en direct, en public. Mais M. LaRouche a voulu s'adresser aux institutions américaines, aux pays et au monde entier avant cette investiture, à cause de la gravité de la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Car il y a eu une grande demande de la part de nos amis et sympathisants, de nos contacts, pour que LaRouche intervienne au plus vite. Donc nous aurons des questions qui viennent du monde entier. Si vous êtes de partout dans le monde via Internet, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Mais tout de suite, sans plus attendre, Lyndon LaRouche.
To begin with, before getting into the questions and my response to them.
Avant d'aller dans les questions réponses.
In my direct remarks here. On the situation.
Mes propos vont se concentrer sur la situation qui a amené Paul Volcker à intervenir dans une commission au Sénat.
Exactly what President Obama.
Le fait est, aujourd'hui, c'est que personne ne sait quelle sera la politique de Barack Obama sur la crise financière internationale. Évidemment, il n'a quasiment rien dit sur sa politique tant qu'il n'était pas président, c'est évident. Mais ma préoccupation aujourd'hui, c'est de clarifier les éléments que doit prendre en compte Barack Obama pour pouvoir prendre les meilleures décisions du point de vue des relations internationales et par rapport à l'économie du monde. Comme la plupart d'entre vous savez, il y a peu de gens qui ont publiquement vu venir la crise dans laquelle nous sommes et qui a annoncé des remèdes appropriés. Et si vous regardez au pire les congressistes, c'est une incompétence totale.
The breakdown of the international monetary financial system.
Le 25 juillet 2007, j'avais annoncé l'effondrement du système financier international. Et 3 jours après, c'est ce qui s'est passé. Alors, les gens, sans savoir de quoi ils parlaient, ont qualifié cela de crise des subprimes. Mais ça n'a rien à voir avec les subprimes. Car ce que j'avais annoncé 3 jours auparavant, ce n'était pas une crise des subprimes ou des crédits hypothécaires en général. Le fait est que le monde, économiquement, physiquement, a été détruit par la croissance financière, la croissance de la bulle financière. Et cette phase ultime s'est amorcée lorsque Volcker a quitté la présidence de la Réserve fédérale en 1987 et qu'il a été remplacé par Greenspan. Et c'est Greenspan qui a créé cette bulle qui a gonflé sur le dos du monde jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'en juillet 2007. Et en réalité, ce qui a explosé, c'est la bulle internationale des produits dérivés. Et cette bulle est de plusieurs millions de milliards de dollars, nominalement. Donc le seul moyen, c'est de s'adresser directement à ce problème. Et la première chose, c'est que jamais on ne renflouera une telle quantité de titres financiers. C'est impossible. Il va falloir effacer ces actifs financiers des livres de compte. Et le monde que nous devons sauver va vivre, nous allons le mettre sous protection en éliminant la majeure partie de tous ces titres financiers. Si on ne fait pas ça, et la plupart des gens sont effrayés de faire cela, mais si on ne le fait pas, si on n'efface pas tous ces titres financiers, alors on ne pourra pas sauver l'économie physique du monde. Et à ce moment-là, la population mondiale ne pourra pas rester à 6,5 milliards et nous chuterons en direction de 1 milliard en une ou deux générations. Donc, si vous considérez un tant soit peu l'humanité, il va falloir effacer ces titres financiers, les annuler purement simplement. Sans quoi, si on continue les politiques de renflouement, nous allons soudainement entrer dans une crise hyperinflationniste.
Now what happened because again, because of Alan Greenspan's playing with Fannie Mae, and you should never play with your Fannie, but because of that, we'd reached a point where the subprime mortgage factor had become the reflection, the leading...
Mais avec la politique de Greenspan sur Fannie Mae et Freddie Mac, sur les titres immobiliers américains, les hypothèques, le secteur des crédits hypothécaires est devenu le plus sensible et a été le premier à exploser. Mais c'est la réalité économique qui a mené la bulle des crédits hypothécaires à exploser. C'est la situation économique réelle qui a déclenché l'explosion des subprimes.
What is happening is that the rate of self-growth of the financial derivatives bubble has reached the point relative to a collapsing physical level of productivity per capita per square kilometer, which is topping the whole system. The secondary factor in this was the fact that the United States economy, since 1968.
Et l'économie américaine, on a eu deux phénomènes parallèles. Le premier, c'était une croissance exponentielle du marché des produits dérivés. Et l'autre, c'est l'effondrement du potentiel de densité démographique par kilomètre carré dans les pays industrialisés, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et ça avait lieu en même temps que l'effondrement de l'économie soviétique.
Of the United States, particular in Europe in particular, and the former Soviet Union. At the same time that we have been exporting production to cheap labor markets in places such as China.
Et au même moment, on a commencé à exporter nos productions ou délocaliser nos productions vers les pays du Sud, comme la Chine.
Dependent upon, largely, doing the production for the United States and in part Europe.
On a accéléré le problème.
India, for example, has a lower ratio of its total economy depends upon exports.
La plus grande majeure partie de l'économie chinoise ou indienne dépend des exportations.
Donc,
l'effondrement que nous vivons a entraîné un effondrement de l'économie chinoise. Et les économies des pays d'Europe de l'Est sont aussi en plein effondrement. Et aujourd'hui, elles sont dans des conditions physiques, des conditions économiques physiques pires que sous le système soviétique. La Pologne est en bien mauvais état, dans un pire état que sous le système soviétique.
The agro-industrial powerhouses of the world including the United States, which have become more and more post-industrial societies, falling to lower and lower levels of technology.
Et nos pays qui sont devenus des pays post-industriels,
on the other hand, we have been going into cheap labor markets,
ont abandonné leur concept d'économie agro-industrielle intégrée et ont exporté leur production, délocalisé leur production. Et ça, c'est la tendance depuis l'année 1967-1968, en tout cas pour les États-Unis, où physiquement, la croissance est négative.
Basic economic infrastructure, the United States economy has been disintegrating. The level of productivity, the level of scientific progress.
Donc le niveau de productivité, de progrès scientifique, tout le secteur productif s'effondre depuis 68.
We have been expanding the markets for production for a while.
Et l'Europe s'effondre totalement depuis 1989-1990.
Now, the whole shebang, which was based on hyperinflationary investment.
Et aujourd'hui, le Japon aussi est pris dans cet effondrement.
In terms of reforming the present system.
Et il n'y a rien à faire avec ce système. On ne peut pas le réformer. Tant qu'on essaiera de sauver ce système, on ne pourra pas sauver le monde. Donc pour cela, il faut que nous revenions à notre constitution, la constitution américaine, et remettions à jour les principes de Franklin Roosevelt. Nous devons abandonner le système monétaire actuel. Il n'est pas sauvable, c'est impossible. Le système bancaire actuel n'est pas sauvable. Par contre, on peut sauver l'économie physique. Et en se reposant sur les principes de la Constitution américaine, qui a été notamment faite par Alexander Hamilton, on va créer un système de crédit pour remplacer ce système monétaire.
The basic problem of the world today is what some people call the British Empire.
Le problème du monde aujourd'hui, c'est ce que certains appellent l'Empire britannique. Mais Empire britannique est en réalité n'est pas le bon terme. C'est-à-dire, c'est déjà pas l'empire de l'esprit des Anglais. Mais c'est un système bancaire spéculatif qui contrôle le système financier international. Et avec la mondialisation, cet empire est devenu mondial. C'est un empire mondial. On peut l'appeler l'empire anglo-hollandais-saoudien. Car c'est en 1763 que ce système a réellement démarré. Et en réalité, dans l'histoire, il n'y a jamais vraiment eu d'empires nationaux. Il n'y a eu que des empires menés par des intérêts financiers, par des intérêts usuriers. Et nous sommes dans un système financier usurier qui domine le monde. Et aujourd'hui, ce système s'effondre. On ne peut plus tolérer ce système. Et si on essaye de le sauver, on coulera avec. Donc cela donne une mission très spéciale aux États-Unis en vertu de notre Constitution. Nous pouvons et nous devons mettre en réorganisation de banqueroute, en banqueroute organisée, le système financier international. Tout ce qui sera est essentiel sera alimenté pour afin d'accroître la base économique physique. Et tout ce qui n'est pas lié à la production sera gelé. Donc on va mettre en banqueroute organisée, une sorte de redressement judiciaire, tout le système financier mondial. Et ça permettra d'éliminer cet empire anglo-saoudien. Et pour cela, les États-Unis, sous le mandat de ce nouveau président, doivent provoquer ce changement. Que vous l'aimiez ou non, C'est pas la question. Est-ce que vous voulez survivre? Est-ce que vous voulez que les États-Unis continuent d'exister? Est-ce que vous voulez sauver, par exemple, la Chine de l'effondrement total et du chaos? Est-ce que vous voulez sauver la Russie pour qu'elle puisse jouer son rôle dans le monde? Nous devons créer un partenariat entre ces forces, la Russie, la Chine, l'Inde et les États-Unis, en tant qu'État-nation souverain, qui se mettent d'accord pour combattre cet empire financier.
Or have engaged in wild speculation, who've now driven the world physical economy to the point of breakdown, these people are going to eat it.
Et les banquiers, les financiers qui nous ont mis dans cette situation vont avoir le retour de bâton. Nous devons nous concentrer sur ce qu'il y a à sauver, créer cette coopération entre tous les pays qui le veulent, et mettre en place ces politiques dans un système tel que le concevait Franklin Roosevelt en 1944. En finir avec l'impérialisme, en finir avec la mondialisation, en finir avec cet empire financier. Et cette alliance doit se faire sur un principe westphalien, le traité de Westphalie de 1648. Et nous allons bâtir un monde tel que Franklin Roosevelt le pensait, en avait la vision. Et pour cela, il faut un système de crédit, c'est-à-dire un ensemble de banques nationales dans chaque pays. Et cette alliance est nécessaire pour avoir la puissance combinée pour pouvoir mettre en banqueroute organisée ce système. Soit on fait ça, soit vous ne survivrez pas. Donc ce n'est pas une question de choix, de goût, d'envie. Voulez-vous que notre pays survive? Voulez-vous que cette planète en sorte? Êtes-vous prêt à vous exposer, à vous mettre de l'avant, comme doit le faire le prochain président? Et c'est ça le plan, c'est mettre le système financier en banqueroute organisée. On va les mettre en redressement. On va faire fermer le marché des dérivés entièrement. Et on va sauver ce qui est essentiel pour le développement, comme les infrastructures, tout ce qui permet d'avoir un niveau de vie digne. Et pour cela, il faut un groupe de nations qui ait assez de puissance pour mettre en banqueroute le système britannique, l'empire anglo-britannique, anglo-saoudien. Parce qu'on est sur la pente descendante depuis 1968, et maintenant, on n'a plus qu'une seule solution. Il n'y a pas d'autre alternative à ce que je viens de vous exposer. Je m'en fous de ce que vous pensez, de quelles sont vos opinions sur la question, parce que ce n'est pas une question de choix aujourd'hui, c'est une réalité. C'est comme quelqu'un qui commande en période de guerre. Vous avez un défi que vous ne choisissez pas. C'est ce type de responsabilité qu'il faut prendre aujourd'hui. Ce genre de moment où il faut prendre une décision qui implique le sort de toute l'humanité. Soit on le fait, soit on ne s'en sortira pas. Et le président des États-Unis doit être bien clair sur cela. Donc arrêtons de discuter les propositions des gens du système qui ont subi échec sur échec. Tout a échoué. Tous leurs plans, tous leurs systèmes, toutes leurs théories ont échoué. Depuis bien longtemps d'ailleurs. Soit nous changeons de manière de faire, soit nous rejetons ces vieilles traditions pour revenir aux principes des fondateurs des États-Unis et de Franklin Roosevelt, alors on ne survivra pas.
But is your opinion worth honoring? Does it correspond to the requirement of survival? We are now at that point. We're at the point where the inauguration of the next president of the United States.
Voilà la situation. Nous allons avoir un nouveau président.
Is this nation going to survive?
Et il va falloir répondre à cette question. Est-ce que cette nation va survivre? Est-ce que cette civilisation, l'ensemble des pays du monde, vont survivre? Est-ce qu'ici, aux États-Unis, on va avoir le courage de prendre les décisions qui permettront à la planète de s'en sortir? Parce que sans ça, on se précipite dans le plus gros effondrement que personne n'ait jamais vu. Notre système éducatif est un échec. Et la culture dans laquelle nous sommes aujourd'hui est un échec. Il y a plein de croyances, de choses qu'on croyait évidentes, qu'on prenait pour acquises. Mais aujourd'hui, elles s'effondrent, parce que sans cela, on n'en serait pas arrivé au point où nous en sommes.
We have failed to understand completely the basic principle of physical economy. Don't talk about money economy. Yes, money is significant. Managing money.
Regardez sur la question de l'économie, le problème de fond.
What's your principle of economy? I mean, physical economy.
Qu'est-ce que l'économie? Ça, rien de monétaire, l'économie, comme on l'apprend partout.
I'm talking about longevity of household members of households.
C'est une question physique, c'est une question de la vie des familles, de la vie des ménages, de une question de une réalité physique.
They mostly have an agricultural base, and that base is shrinking. For example, water crisis. India does not have.
Aujourd'hui, regardez l'Inde. L'Inde n'a pas suffisamment d'eau potable, d'eau douce déjà pour son agriculture et d'eau potable pour sa population. Donc ils perdent leur base agricole. Ça, c'est un problème physique. Donc pour résoudre ce problème physique, il faut une solution physique qui est de dessaler massivement de l'eau de mer, pas seulement pour l'Inde. Et donc il va falloir passer dans une économie nucléaire, où l'énergie de base soit l'énergie produite à partir de la technologie nucléaire.
Et
il y a des perspectives. Parce que par exemple, on peut prendre le plutonium qui est rejeté par certains types de réacteurs, par certains procédés nucléaires, et en faire du carburant, du combustible pour d'autres centrales, pour d'autres réacteurs. Et l'Inde, comme l'Australie, est bien placée pour cela, car il possède la plus grande réserve de thorium au monde. Donc les Indiens sont prêts à produire des réacteurs au thorium.
Et
ça accroîtrait le pouvoir productif de leur population. Et c'est exactement ce qu'a besoin la majeure partie de la population indienne. Et cette nation, l'Inde, a le droit de faire cela. Et l'ensemble des nations a le droit de faire ce type de choses.
Utilize to ensure that we're able to deal with such a simple thing as the water, fresh water resources, which humanity requires.
Car on doit pouvoir s'assurer que l'humanité ait l'eau qui est nécessaire à sa propre survie.
Some people think that you can count energy in calories. You're an idiot.
Et sur la question de l'énergie, beaucoup de gens pensent qu'on mesure l'énergie en chaleur. Mais la chaleur ne mesure pas la puissance qui est donnée. Car c'est la densité d'énergie d'une source qui détermine la productivité. Donc, nous devons développer des énergies à haute densité. Et pour cela, il faut la technologie nucléaire. Car nous sommes 6,5 milliards, bientôt 7. Et pour produire l'eau douce, l'eau potable dont nous avons besoin, il va falloir cette quantité d'énergie. Et si on ne fait pas ça, alors on va certainement vers la guerre. On en crée les conditions. Donc ça, c'est l'intérêt commun de toutes les nations. Et c'est sur ce principe d'intérêt commun aux différentes nations qu'on avait sorti l'Europe de la guerre de 30 ans en 1648. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de la Russie, qui est une nation eurasiatique, qui est à la fois européenne et à la fois asiatique, et qui couvre une grande partie du continent eurasiatique, et qui a une grande capacité scientifique. Nous devons prendre la Chine, avec ses 1,4 milliard d'habitants. On va prendre l'Inde, avec ses 1,1 milliard de personnes. Ce sont les deux plus grandes nations d'Asie. Et ensuite, avec cette force alliée aux États-Unis, on va virer les Britanniques d'Afrique. Et on va permettre à l'Afrique de se développer. On va rendre l'Afrique à l'Afrique, aux Africains. Car les pays africains ont le droit à être des États-nations souverains. C'est leur droit. On va leur donner.
To take a population in Africa which is largely unskilled in the modern sense, and to utilize infrastructure and other features to increase the productive powers of labor effectively per capita per square kilometer.
Et pour opérer ce changement, nous devons créer massivement des infrastructures pour transformer la capacité productive des travailleurs de partout dans le monde.
Utilization of improvements needed to realize that. Africa has large resources of natural resources. Enable Africa to use.
Et l'Afrique a de très grandes ressources minérales, de très grandes ressources naturelles. Donc ils ont le droit de les utiliser, de pouvoir les exploiter avec les meilleures technologies existantes.
As is South America,
C'est la même chose pour l'Amérique du Sud. Et aussi pour la Sibérie.
In many cases, take populations which are poor in skills, but committed to productivity, and by use of infrastructural features such as mass transportation.
Car les infrastructures permettent de transformer la capacité productive des populations.
And use these as factors to increase the effective productivity of people who under present conditions are not too productive. And that's the way we can solve it.
Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens dans le monde ne sont pas productifs, ne peuvent pas produire pour la survie de leur propre pays, parce qu'ils n'ont pas les infrastructures, ils n'ont pas les technologies disponibles sur leur territoire.
About building a world free of empire.
Et ça, c'était l'idéal de Roosevelt, de bâtir un monde d'États-nations souverains qui soit libre, ou qu'il n'y ait plus sous l'emprise d'un empire, et qui puisse bâtir ensemble ce monde.
Et
repenser à la naissance des États-Unis, qui est le fruit de l'immigration européenne, qui ont fui l'emprise de l'oligarchie européenne, du système oligarchique qui régnait sur les nations d'Europe. Et dès mardi, nous devons faire en sorte et espérer que le président soit engagé à incarner cette tradition, à faire cette proposition à la Russie, à la Chine, à l'Inde. Et c'est d'autant plus urgent que les menaces de déstabilisation de ces nations, particulièrement avec ce qui se passe actuellement en Asie du Sud-Ouest, et donc cette coopération westphalienne entre les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde vont permettre de briser, ou doivent permettre de briser ce système d'empire financier. Et le président doit avoir le courage de mener cela, de participer à cela. Il doit se comporter comme s'il était Franklin Roosevelt. On doit en revenir au principe de Roosevelt et effacer la corruption qui s'est installée à partir de Truman et avec Truman.
Get back to fulfilling that obligation. Now, that means we've got to change the way we talk about economics. We've got to stop talking.
Donc pour cela, nous devons changer notre conception de l'économie. Arrêter de parler d'argent. L'argent, c'est qu'un moyen d'échange. On doit le réguler. On doit réguler les banques. Revenir à un système bancaire comme avec le Glass-Steagall Act, séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt, qui permet d'assurer que l'épargne des gens ne parte pas dans les folies financières. Et on va remettre les banques au travail.
We must take the other part of banking, the high risk part, separate it, look at the garbage, and put.
Et pour sauver les, donc il faut sauver les banques, et pour les sauver, il faut en finir avec la finance, l'économie spéculative. Donc il va falloir séparer le spéculatif du productif. Parce qu'on n'a aucun engagement moral à payer les dettes de jeu. Aucun.
And local banks and local banks, which are chartered banks, which are banks of deposit, which are the reference point for investment. We must provide the credit generated by a federal credit system.
Et à travers ce système bancaire réorganisé, on doit émettre le crédit, on doit faire circuler le crédit qui est émis par la Réserve fédérale en tant que banque nationale.
Those banks have been bankrupted. But we must save the chartered bank element within those banks.
Donc, il est très important de sauver les banques, de sauver leur fonction économique de base. Et pour cela, il ne faut pas chercher à rembourser leurs dettes de jeu. Car ces actifs financiers vont directement contre les intérêts de l'économie. Et plus on essaiera de les repayer, et plus on détruira l'économie.
Et les local national banks are able to perform their traditional function.
Donc on doit permettre aux banques d'accomplir leurs fonctions traditionnelles.
To generate the rebuilding of our economy. Agriculture, industry.
Et à partir de là, on pourra rebâtir réellement notre économie, l'agriculture, l'industrie, l'ensemble de l'appareil productif. Et recréer des emplois productifs, des emplois qualifiés. Parce qu'aujourd'hui, avec l'économie de service, les gens savent peut-être manier un stylo et taper sur un ordinateur, mais ça, c'est pas vraiment de la productivité, vous voyez. Parce qu'à l'opposé, vous avez par exemple le secteur des machines-outils qui est clé, qui est la base de la production dans l'économie, qui a disparu, qui s'est complètement effondré. Mais pour accroître la productivité d'ensemble, on va rebâtir des infrastructures en usant les meilleures technologies et en utilisant une base énergétique de haute densité basée sur la technologie nucléaire. Et aujourd'hui, par exemple, on doit mettre de côté les voitures. C'est fini, les voitures. On doit créer des systèmes de transport de masse. soit ferroviaire ou à lévitation magnétique. Et le transport aérien est complètement stupide sur les courtes distances. Il faut des trains rapides. Et on a trop de voitures. Ça ne sert à rien d'avoir autant de bagnoles sur les autoroutes et dans la rue. On doit avoir des systèmes de transport massifs qui soient efficaces. C'est quand même un but que les gens puissent être bien transportés, c'est important. Ici, en Virginie, autour de Washington, les gens font en général entre 2 et 3 heures de voiture chaque jour. 5 jours par semaine.
If you're taking a person who's working 8 hours a day and not being paid for lunchtime and things like that.
Si vous travaillez 8 heures par jour et que vous faites une pause à midi qui n'est pas payé, qui n'est pas décompté.
What kind of a family life do they have?
Et que vous devez ajouter à ça votre temps de transport. Quelle vie de famille vous allez avoir? Quelle est l'influence sur la vie sociale? Il nous faut absolument des transports de masse. Des transports efficaces.
Away from a few large centers of mass industry into regional development.
Et on doit passer un système de développement régional avec des petites et moyennes industries, de ne pas fonctionner sur 2-3 centres industriels dans une nation, mais de multiplier le développement régional.
Which is what we used to have years ago. That's the way we organized. And leave these extra hours we're now wasting sitting in useless cars, smelling up the gas from the other guy's pipe, and getting sick and having no family life, and leaving children, if you have any, at home, without much cultural backing.
Parce que les conséquences sociales du manque d'infrastructures, et on le voit avec cette question des transports, est terrible. Pensez aux conséquences pour les enfants, qui sont seuls à la maison, à regarder la télé.
Pire.
Et pensez à l'eau. Aujourd'hui, aux États-Unis, on ne boit plus l'eau du robinet. Donc on a un besoin massif d'investissement dans l'infrastructure.
For power systems and things like that, you're talking about 50-year investments.
Et donc on doit faire des ensembles d'investissements sur une période de 50 ans.
We in the United States and other nations must cooperate with our credit systems to assure.
Donc nous, les États-Unis, nous devons coopérer avec les autres nations, avec notre principe de système de crédit, pour permettre ce développement, pour permettre de financer ce changement.
Back for the case of the United States. What we used to think, back while Kennedy was still alive.
Et les États-Unis fonctionnaient encore sur cette compréhension de l'économie à l'époque de Kennedy, dans l'ensemble. Donc ce changement, c'est pas grand-chose. Il faut revenir à la mentalité, par exemple, du programme Apollo. Aujourd'hui, on n'est même plus capable, on n'a plus la capacité physique de mettre un homme sur la Lune. Donc on doit avoir des projets scientifiques qui s'étendent sur plusieurs générations et qui nécessitent la mobilisation économique et la mobilisation du crédit pour pouvoir le faire. Et nous devons entrer en coopération avec la Russie, la Chine, l'Inde et les autres pays. Pour faire ce monde qu'entrevoyait Franklin Roosevelt, pour reconstruire le monde et le libérer de l'impérialisme britannique. Ça, c'est l'engagement des États-Unis depuis ses débuts. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Et nous avons besoin d'un président qui voit les choses ainsi. Merci.
Thank you, Len. In addressing the questions that have come in, let me say that I will take some liberties because we have many questions.
Donc, on a reçu énormément de questions. Et beaucoup de questions touchent au même sujet. Donc je vais prendre des libertés pour reformuler ces questions ou les mettre ensemble. Il y a évidemment des choses qui sont dans les questions auxquelles a déjà plus ou moins répondu M. Larouche dans son propos initial.
From the US side, most of the institutional questions that we have come from people who are involved.
Donc aux États-Unis, la plupart des questions viennent des gens qui sont impliqués dans l'équipe de transition pour cette nouvelle administration. Il y a aussi beaucoup de questions qui viennent du Congrès. Et les questions sont assez différentes des autres webcasts précédents. Et il y a aussi beaucoup des questions qui viennent de Russie et d'Ukraine. Donc autant que faire se peut, je vais grouper et regrouper les questions en grandes catégories. Je vais prendre les questions plus générales et aller plus tard dans les détails. La première question qui a été posée de différentes manières ici à Washington, qui font partie des Américains, des institutions américaines à Washington, qui a été répété, mais c'est des questions qui ont été également posées par le corps diplomatique. C'est une question qui a été posée par plusieurs personnes, et aussi des questions qui sont venues du monde entier. Ce qu'ils sont en train de demander, c'est Monsieur Larouche, quand vous parlez de nouveaux accords internationaux, et en particulier l'accord des quatre nations, vous parlez de la Russie et de la Chine participant à ces accords pour différentes raisons, mais aussi en incluant le fait que ces populations ont des populations de milliards de gens. Ma question pour vous est celle-ci. Pourquoi vous ne considérez pas 1,2 milliard de gens des 66 autres pays qui possèdent plus de 1 milliard d'êtres humains également? Lorsque je suis en train de parler, le nombre de personnes dans le monde aujourd'hui qui font partie du monde musulman, et c'est essentiel pour l'Amérique et d'autres leaders internationaux de commencer à considérer ce problème, de connaître l'islam, de connaître son idéologie, de ne pas le prendre pour un culte, plutôt que de les mettre au défi. Les pays islamiques sont des pays souverains et sont différents dans leurs buts, dans leurs leaders, leur économie et ainsi de suite. Mais c'est aussi le cas que les règles islamiques sont uniques et transcendent tous ces pays souverains. Donc pour mettre en place un nouveau système, il doit y avoir une manière de prendre ça en considération. Même si je sais qu'il n'y a pas des nations souveraines islamiques. Qu'est-ce que vous proposez pour commencer à parler de ça et dans le cadre de faire un nouveau système financier monétaire international? L'idée d'un facteur islamique, politiquement, dans des accords internationaux, ne marche pas. Ce que vous voyez aujourd'hui,
Le pays avec la plus large population islamique, ce n'est pas le Pakistan, c'est l'Inde.
Pakistan is dismembered. It's a...
Le Pakistan est en train de se démembrer.
You have a... Well, let's get to the really the dirty word here. The dirty word is empire.
Le mot très très sale, je dois le dire, c'est l'empire.
Lord Shelburne.
Si vous retournez à Lord Shelburne, qui est l'ancêtre de l'empire britannique dans cette forme, dans sa forme fonctionnelle, de compagnie privée, la compagnie britannique des Indes orientales, qui s'est donné le droit d'avoir sa propre armée, sa propre monnaie, et l'empire britannique n'était pas réellement les gens en Grande-Bretagne, mais l'empire britannique a été défini sous Lord Shelburne comme un modèle d'empire basé sur l'empire romain. Et il réfère directement à Julien l'Apostat, l'empereur romain Julien l'Apostat. C'est ça le modèle britannique. Donc ils ont créé cet empire des guerres impériales. La guerre de 7 ans, par exemple, a été créée par les Britanniques. C'est un groupe financier, pas les citoyens britanniques. Un groupe de libéraux anglo-hollandais organisant des guerres partout entre les nations européennes, des guerres mutuelles. La destruction complète de l'Europe dans cette guerre de 7 ans qui a amené la paix de Paris sous contrôle de l'Empire britannique, qui est devenue une compagnie privée sous la direction de Lord Shelburne. L'Empire britannique a organisé Napoléon Bonaparte, qui était un de leurs sujets. Mais les guerres napoléoniques, qui étaient des guerres sur le continent européen, étaient des guerres qui ont ruiné l'Europe à un tel degré que l'Europe, jusqu'à aujourd'hui, ne s'est jamais remise de ça. Donc on a encore l'Empire. C'est un empire d'intérêts financiers internationaux. Ce qu'on appelle le système monétaire britannique ou le système monétaire européen, qui est un empire. Comment ça marche? C'est la méthode de Julien l'Apostat. Regarde l'empire romain, ou même les empires précédents. Comment ça marchait? Ils ont organisé des gens autour de conflits religieux et culturels. Un exemple. Prends la question de l'Asie du Sud-Ouest. Qu'est-ce qui se passe là-bas aujourd'hui? C'est une opération impériale, mais qui l'a dirigée? C'est les Anglo-Hollandais Saoudiens qui ont organisé tous ces conflits. Et on appelle ça les accords de Sykes-Picot, 1916. L'ensemble des guerres en Asie du Sud-Ouest, ce qu'on a à Gaza également aujourd'hui, ce qu'il y a également contre l'Inde aujourd'hui, ou le Pakistan, en Asie centrale, c'est l'Empire britannique qui prend tous les groupes extrémistes et religieux et les fait se combattre. Et ça a été très clair dans la période sous Bush père premier. On a organisé cette guerre en Afghanistan avec Brzezinski pour que les Soviétiques tombent dans cette guerre en Afghanistan et tomber dans des folies, en fait, que nous, on avait prévues, et nous, on s'est lancé même dans la guerre en Indochine. Mais regardez même l'histoire de la Première Guerre mondiale, comment c'est organisé par le roi d'Angleterre, quand il était encore prince. Comment ils l'ont fait? Regardez, ils ont viré Bismarck. Bismarck, il a mis en garde contre une nouvelle guerre de 7 ans en Europe. Et il a essayé de faire en sorte d'éviter tous les sabotages entre la Russie et l'Allemagne de l'époque. Et qu'est-ce qu'ils ont fait l'Empire britannique? Ils ont viré Bismarck. Et il le savait, il l'a dit. Il a dit, les Britanniques veulent lancer une nouvelle guerre de 7 ans. Et c'est ce qui s'est appelé la Première Guerre mondiale. Et après, la Seconde Guerre mondiale. Et c'est l'origine de ce qui se passe en Asie du Sud-Ouest aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont fait en Amérique du Sud, en Afrique. Vous avez ces pousseur de drogue, un gars qui a été éduqué par des nazis, George Soros, qui est la personne qui veut légaliser le plus la drogue dans le monde. Et aujourd'hui, le Mexique est menacé, les États-Unis sont menacés à cause de ces opérations narcotrafic de George Soros dans le sud de l'hémisphère. L'Amérique centrale et du sud. Vous voulez pas qu'il y ait de problème là-bas? Virez Soros immédiatement. Et il bosse. Pour qui il bosse, George Soros? Pour le British? Pour les British? Pour le Commonwealth britannique? Qui voulait cette guerre à Gaza? Pourquoi Israël fait ça? Parce qu'elle est manipulée par Cheney, Dick Cheney. Et Cheney est plus un agent britannique aujourd'hui, lui et sa femme en particulier, qu'un Américain, un patriote. Parce qu'ils ont l'intention de ruiner toute possibilité de stabilité sous la nouvelle gouvernance d'Obama. Quel problème en Ukraine? George Soros et Dick Cheney qui ont amené au problème ukrainien aujourd'hui. Et en islam, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu penses de la population en Inde? Il y a plus de musulmans là-bas qu'au Pakistan. C'est difficile d'unifier l'islam tant qu'il y aura cet empire britannique. Parce que les Saoudiens dirigent différentes opérations. Donc on doit recréer des institutions, des États-nations souverains. Des nations qui veulent devenir souveraines et organiser des accords entre elles pour défendre les droits des populations sous ce système de souveraineté nationale. Toute autre tentative nous emmènera en enfer. La question, ce n'est pas de mettre l'islam ensemble, on ne pourra jamais dans ces conditions. Tant que l'Empire britannique est là pour déstabiliser. Regardez les attentats terroristes à Mumbai, en Inde. J'étais là-bas à ce moment-là ou juste après. Où ça a été dirigé ces opérations? Londres? Directement, pas le Pakistan. Évidemment, il y avait des gens dans les services secrets pakistanais. Mais surtout, dans les services secrets britanniques, le MI6. Et c'est une des menaces terroristes les plus grandes qu'on a jamais eues ces derniers temps. Et cette organisation représente un phénomène qu'on a déjà vu. C'était une opération d'un coup. C'était des opérations terroristes à répétition contre un pays. D'où ça vient? Au centre de l'Église anglaise. Et vous aviez des gens très importants dans les communautés religieuses en Angleterre. Ça ont été les centres d'organisation de ces opérations terroristes en Inde. C'est pas un mystère. Et toute personne qui vous dira le contraire, dites-lui de retourner s'éduquer un petit peu et de regarder les choses d'un peu plus près, s'il vous plaît. L'archevêque de Canterbury fait partie de ces gens. Qui sont contrôlés par les centres wahhabistes en Arabie Saoudite, qui sont également des agents britanniques. De Dubaï, par exemple, un C30, un centre du blanchiment de l'argent de la drogue à l'échelle internationale, par exemple. Et c'est comme ça que les choses sont contrôlées. Avant de poser cette question d'un groupe de nations souverains qui doit travailler ensemble, on doit avoir une cohérence. Celle de nation et de la population musulmane du monde n'est pas une nation en tant que telle. Et les gens, les Britanniques, jouent les uns contre les autres. Revenons sur le cas de Gaza. L'opération Gaza a été mise en place par Dick Cheney, les Britanniques, en janvier 2008. Et gardée dans le sac pour mettre en place après les élections de novembre 2008. Pour venir entre l'élection en novembre et l'inauguration du président la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, vous avez un facteur dans la population musulmane du monde qui s'appelle les frères musulmans. Regardez les accords de Sykes-Picot. Les frères musulmans ont totalement, dès le départ, été contrôlés par les Britanniques. Et une des créations des accords de Sykes-Picot sont les frères musulmans qui ont lancé des opérations partout dans le monde musulman. Et le Hamas a été contrôlé du haut vers le bas par ses frères musulmans. Donc les frères musulmans, qui est un sujet de l'Empire britannique, et le gouvernement israélien également manipulé par des accords de l'époque. Et donc ils se battent ensemble depuis ce temps-là. Pas parce que la bande de Gaza, les gens là-bas veulent se battre, mais parce qu'on leur demande de se battre. Et il y a eu aussi des opérations centrées en Arabie Saoudite. Regardez cette histoire des missiles soi-disant iraniens que ces réseaux saoudiens utilisent pour faire croire que l'Iran est dans le complot. Ça, c'est le type de problème auquel on doit faire face. S'il n'y a pas d'accord de principe, entre États, nations, souverains, on peut négocier, on peut faire face à ce phénomène, on peut respecter le droit des gens, mais on ne pourra pas créer un bloc de ce qu'on veut faire tant que ces nations seront manipulées et contrôlées par ces opérations britanniques. Donc on doit retourner. Donc, vous devez comprendre ce qu'a fait Julien l'apostat. Je ne vais pas laisser ces populations prendre le poison et avaler le poison qu'on leur a donné. Monsieur Larouche, la prochaine question. C'est une question d'une partie de l'équipe de transition d'Obama. C'est une question générale et de base, mais je pense que tu comprends qu'on a discuté pendant des heures. Quand vous parlez d'un nouveau Bretton Woods, et tu l'as refait aujourd'hui, tu parles d'un système de crédit, pas un système monétaire. Et ça nous cause beaucoup de problèmes à le conceptualiser pour amener et mettre en place ce nouveau système. Et c'est vraiment nécessaire, de ton point de vue, que nous créions des accords totalement séparés. D'un côté, une nouvelle architecture financière internationale, comment chaque nation va déterminer la valeur de sa monnaie et qu'est-ce qui lui est rattaché. Et de l'autre côté, aussi, un système international d'accords de crédit qui sera orienté vers des projets multinationaux, pour des grands projets, etc. On a des difficultés énormes à conceptualiser comment ramener les deux choses ensemble. Pour nous, c'est complètement séparé. Et donc, ça nécessiterait des accords complètement séparés. Je suis d'accord, vous ne pouvez pas mettre les deux ensemble. Vous ne devriez pas mettre les deux ensemble, vous devriez supprimer le système monétaire. Premièrement, si vous êtes un patriote des États-Unis, vous devez le faire de cette manière. Pour être un patriote mal dirigé, mais si vous ne l'êtes pas, et si vous pensez que vous l'êtes, du bon côté. Mais qu'est-ce qui est de commun dans la Constitution américaine? Vous parlez d'accord entre les nations et le système de crédit. Regarde la Constitution, il n'y a pas de différence. tu adoptes et mets en place la constitution américaine en termes de crédit, et à chaque fois qu'on fait pas, met en place le système de crédit, on viole nos propres lois. Le président des États-Unis, ou la présidence des États-Unis, via la Chambre des représentants, demande au Congrès d'autoriser la création de crédits monétarisables sur la base sous des accords qui sont décidés par le Congrès, et on émet du crédit. Il n'y a pas d'agrégat financier, d'actifs financiers qui devraient être construits ou gérés ou générés sans cet accord du Congrès, qui est un système monétaire, donc on doit mettre fin à ça. Maintenant, vous parlez des rapports entre les différents États. Comment on fait un traité avec d'autres nations? C'est la même procédure. La branche exécutive, sous sa responsabilité, fait une suggestion au Congrès pour prendre une décision, pour faire un accord, un traité avec d'autres nations. Sur la base de l'accord du Congrès, et après, donc, on a ces traités de relations avec les autres nations. Donc, la question des traités avec les autres nations ou les systèmes de crédit à l'intérieur des États-Unis sont les mêmes choses. Mais ce qui est faux, mais c'est de rentrer dans des accords monétaires avec d'autres nations à l'extérieur du système de crédit, à l'extérieur de notre système constitutionnel. On ne devrait pas le faire. Et on a cette influence britannique qui croit en fait au système monétaire dans notre pays. Un système monétaire sont des organisations privées, de banquiers internationaux et ce type de choses bizarres qui poussent les gouvernements à faire des accords avec elles, comme le vieux système britannique, comme la Banque d'Angleterre l'a fait longtemps. Mais la création monétaire, les actifs financiers ne devraient pas être créés de cette manière. Mais elles sont créées dans ce cas par des intérêts financiers privés qui ensuite après soumettent les États-nations à accepter leur politique monétaire. Je suis contre la sodomie monétaire, surtout quand ça concerne les États-Unis. Donc on va arrêter toutes ces conneries. On va arrêter, annuler ce système monétaire, et ça, on ne va pas négocier là-dessus. On va négocier avec les nations, mais pas avec le système monétaire. Parce qu'on va l'annuler. Tous les actifs monétaires vont aller à la poubelle. Sinon, c'est l'hyperinflation généralisée de millions, de milliards de produits dérivés financiers dans le système monétaire international. On va les annuler. Le système monétaire est un système de casino. Regarde, la loi de Glass-Steagall, c'était ça. On contrôlait notre crédit au niveau fédéral et au niveau des États pour garder le fonctionnement normal des banques locales et protéger les banques de dépôt au niveau local et empêcher les joueurs de jouer avec l'épargne des gens. Qui aujourd'hui ont pris le contrôle, ces joueurs de casino. Ils ont pris nos contrôles de nos banques de dépôt. Donc on doit les annuler. On les met en banqueroute organisée. Et ce système monétaire va tout simplement cesser d'exister. Parce qu'on l'aura mis en banqueroute organisée. Et après, quand les gens viendront nous voir pour du crédit, le gouvernement fédéral, et on dit, ouais, ok, on a une procédure. Nous sommes un système de crédit contrôlé par la loi, des lois constitutionnelles, et on opère par les lois constitutionnelles. Et tout ce que vous avez passé dans les paradis fiscaux, c'est parti, c'est disparu. J'ai fait cette proposition. Je l'ai dit le 27 juillet 2008, j'avais prévenu ce qui allait se passer. Et 3 jours plus tard, on a eu un effondrement d'une ampleur sans précédent aux États-Unis. J'ai mis 3 mesures spécifiques sur la table. une action fédérale immédiate pour des accords généraux pour faire face à ce qui allait se passer. Et au lieu de faire ça, le sénateur du Connecticut, Barney Frank, ils ont fait des motions complètement criminelles. Et on a mis en banqueroute encore plus notre système bancaire avec ces mesures. Et Barney Frank est aujourd'hui la cible majeure dans cette destruction. C'est un traître. Ils ont fait plus pour détruire l'économie. Ils ont fait plus pour détruire l'économie américaine que n'importe quel de nos ennemis dans le monde. Donc on doit arrêter tout ça. Mais comment ces gens devraient être en prison fédérale, pas dans le gouvernement fédéral? On doit avoir une commission Pecora immédiatement. Et cette fois, une très grosse. Ce qu'on a besoin, c'est d'une énorme commission Pecora. Mettre tous ces gens-là en prison. Donc on a nettoyé le système de tout ça et revenir à des accords. Et c'est ça la question. Comment on sort de ce bordel? On était la nation la plus puissante que le monde n'avait jamais connue en sortant de la Seconde Guerre mondiale. On avait démontré malgré Truman ce qu'on était capable de faire, jusqu'à plus ou moins ce qu'a fait Kennedy. On avait la plus grande nation de cette planète, qui était même la seule nation sur cette planète à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, préparée à créer un système mondial d'État-nation souverain, un système de crédit. Et après, vous avez les Britanniques et Truman qui ne voulaient pas arrêter l'Empire britannique. Et Truman agit totalement pour l'Empire britannique. Se relancer dans des guerres, comme en Indochine ou ailleurs, combat d'empire. On a recolonisé l'Indochine. On a fait ça partout dans le monde, alors que Roosevelt avait l'intention de faire l'inverse des systèmes d'État-nation souverains. Et Truman et ce type de port ont refait l'inverse. Ils ont ramené l'empire sous contrôle britannique. C'est un acte de trahison. On avait créé la plus grande nation. On a sauvé le monde du nazisme. Sans ce qu'on a fait, ça n'aurait pas été possible à l'époque. Et on a été trahis. Encore, encore et encore. On a été pillés et trahis. Et ceux d'entre nous qui chérissent ce que est réellement les États-Unis, ce que le représente comme le meilleur de la tradition européenne. C'est quelque chose qu'on va devoir protéger, on va devoir décider. Est-ce qu'on va revenir à des accords? On ne va pas faire de grands compromis qui nous ont amenés à la chute d'enfer dans laquelle on vit depuis des années. On doit sortir de cet héritage du libéralisme. On doit redéfendre notre constitution, le principe de notre constitution. Et seulement sous ces conditions, nous, en partenariat avec la Russie, la Chine, l'Inde, alors on peut sauver le monde aujourd'hui. Et si on fait des compromis, on ne pourra pas. Soit vous êtes du côté de l'humanité, soit vous ne l'êtes pas. Et chaque personne doit regarder sa propre moralité. Est-ce que vous voulez vraiment défendre l'intention de la Constitution et ramener ces questions dans ces termes? Si vous ne faites pas ça, on ne va pas le faire. Et ça sert à rien d'être gentil et essayer de régler les problèmes en faisant des compromis. On doit changer les habitudes des gens, leurs habitudes de pensée. Regardez les causes de pourquoi ce pays a été détruit. Regardez les institutionnels, les gens dans nos milieux politiques. On doit leur dire, est-ce que vous voulez sauver votre pays, votre planète de cette corruption politique? Retournez au principe sur lequel cette nation a été fondée. Et construire un système de nations souveraines sur cette planète.
We are going to come back to the...
On va revenir à cette question de la commission Pecora et exactement ce que devrait être cette commission et qu'est-ce qu'elle devrait investiguer. Mais avant ça, je voudrais parler d'autres questions qui sont arrivées sur la question de la grandeur réelle du problème américain et ce qu'on doit faire. Donc la première question vient d'un officiel national dans le mouvement syndicaliste qui demande de la justesse de la proposition qui a été votée par le Congrès hier. Il écrit, Monsieur LaRouche, en accord avec nos estimations, ce que nous avons besoin, 1 million d'emplois nouveaux chaque année aux États-Unis pour faire face à la croissance de notre population. Avant que la crise frappe aux États-Unis. On est à 800 000 aujourd'hui, mais durant les dernières années, on a perdu plus de 2 700 000 emplois. Et on perd aujourd'hui presque 500 000 emplois par mois. Et à moins que des actions radicales soient prises immédiatement, c'est en train d'accélérer. Maintenant, on a 10 millions d'emplois en moins pour opérer ce qu'on a à faire. Et ça n'inclut pas, je le rappelle, les emplois non officiels, des gens qui ne sont pas comptés comme des non-employés, des chômeurs, ceux qui ont abandonné totalement l'idée de travailler. Ou d'autres qui vivent à temps partiel. Et ces gens sont en dehors des millions qui sont déjà inclus dans les statistiques des chômeurs. C'est quelque chose comme 20 millions de plus. Donc on peut avoir quelque chose comme 30 millions de chômeurs en tout aux États-Unis, réellement. Et il y a un rapport qui a été publié dernièrement par le Comité central du budget américain. Si rien n'est pris, d'actions radicales ne sont prises aujourd'hui. 8 millions de citoyens de classe moyenne aux États-Unis vont être jetés dans la pauvreté, dans la classe moyenne. Et la classe plus basse va être plongée dans ce qu'on appelle officiellement une pauvreté importante. Donc ça c'est une catastrophe nationale. Et au milieu de tout ça, le président Obama a son plan. De 800 milliards de dollars. Je rappelle qu'il n'y a que 90 milliards qui iront dans les infrastructures. Alors, comment on peut adresser cette situation d'ensemble et comment on peut la faire face rapidement pour stopper cette catastrophe qui est en mouvement? Bon, soyons concrets maintenant. Problème concret, réponse concrète. Bon, déjà, il faut arrêter de vous leurrer avec la question de l'industrie automobile. Hein? Elle a été détruite par le Congrès américain. Essentiellement, dans l'année fiscale Pardon. L'industrie automobile ou l'industrie en général a été détruite depuis 1967, année fiscale 1967-68. Et c'est à ce moment-là que l'économie d'infrastructure de base est devenue négative. Et qu'on a arrêté les investissements à long terme dans l'amélioration des transports et de tous les types de systèmes d'énergie ou autres, ou systèmes de l'eau potable. Parce que déjà, rien que les infrastructures pour l'eau ou l'énergie ont des temps de vie limités, ça c'est évident. 20-30 ans. Donc dans combien de villes aux États-Unis, rappelez-vous, dans les années 60, pouvaient boire de l'eau potable par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, combien de gens achètent de l'eau en bouteille au lieu de boire l'eau du robinet chez eux? Qu'est-ce qui s'est passé? Le système est parti en sucette. Ce qu'on avait construit sur le Mississippi du nord au sud, la vallée du Tennessee avec les grands barrages, etc. Dans les États de l'Ouest, etc., on avait développé vers le Missouri tout un ensemble d'infrastructures pour l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On n'a jamais continué le développement. On n'a même pas développé un système de gestion de l'eau dans ces régions. Deuxièmement, ce qu'on avait développé le long du Mississippi, aujourd'hui, est détruit. Pourquoi? Pourquoi on a construit ça si c'est pour les laisser se détruire? Et en 2005, je l'ai dit, si on prend les gens au niveau de là où ils vivent, et si on regarde l'histoire, en particulier les industries automobiles, retournons à la Seconde Guerre mondiale. Comment on a fait des chemins de fer à l'époque? Comment on a fait les avions pour la Seconde Guerre mondiale, etc. Comment on a fait tout ça marcher? Système d'aménagement de l'eau. On a fait ça avec une approche du haut vers le bas. La science physique, de la science physique à la construction de machines-outils pour la production et le design de composants qui pouvaient servir à ce type de projet. Un système national de transport ferroviaire. Vous voulez construire un système de canaux à l'échelle nationale? Vous voulez amplifier le système de canaux, de contrôle des eaux? Donc on a une population qui est encore hautement qualifiée ou relativement hautement qualifiée. Donc vous prenez ces communautés, comme on l'a vu pour l'industrie automobile, vous prenez ces populations, vous les gardez. Ils sont habitués à travailler dans ce genre d'industrie, dans la production. Donc au lieu de produire aujourd'hui plein d'auto, que ça ne marche pas, c'est que vous produisez d'autres choses. Par exemple, un système de transport à lévitation magnétique à l'échelle nationale. Donc ça, ce sont des... Ça, ça va être des investissements sur, disons, 25 à 50 ans. Donc ce qui est nécessaire, c'est que le gouvernement fédéral crée un système de crédit à 1-2% de taux d'intérêt pour ces types de projets à long terme. Et au lieu de renflouer les banques, on reprend cet argent et on investit ici. Mais regardez la corruption qu'il y a chez les membres du Congrès qui pousse à ces plans de renflouement. L'administration Bush est corrompue moralement jusqu'au bout. Donc là, le président devrait le faire quitter la Maison-Blanche et l'emmener directement en prison. Et on pourra le faire que par ce système de crédit dont j'ai parlé, au niveau de l'État fédéral, en coopération avec les différents États, créant une dette qui est utilisée pour financer de grands projets d'infrastructure à grande échelle. Et ce financement devient le moteur pour restaurer les communautés au niveau local. Et un gars qui bossait pour l'industrie automobile, qui n'a pas perdu son boulot, qui ne perdra pas son boulot, on va le recycler avec les mêmes qualités, dans le même endroit, basé sur les mêmes machines-outils, les mêmes technologies, pour faire autre chose. On n'a pas besoin de toutes ces automobiles, je le répète. On n'a pas besoin de tout ça, toutes ces voitures qui fument et qui nous empêchent de respirer. Et on doit revenir à certaines valeurs familiales. Les gens, je l'ai dit, ils ne devraient pas passer 2 heures dans des voitures chaque jour. Avant, c'était 15 minutes, une demi-heure, une heure au vraiment maximum pour aller travailler, son retour. On doit revenir, on doit reconstruire notre économie, faire des systèmes de transport à grande échelle. Stopper ce trafic aérien stupide. Recréer des industries PME, PMI de manière plus décentralisée pour remplir le territoire de travail. Et pas des corporations multinationales énormissimes. Ça ne marche pas. Et se concentrer sur le progrès technologique pour augmenter les capacités productives de la nation. Refaire un effort d'éducation pour rendre les gens capables de faire ça, changer l'environnement. Et si vous faites cette capitalisation via le gouvernement fédéral sur une période, disons, de 25 à 50 ans comme c'est approprié, alors, we can do it, on peut le faire. Les banques sont vides aujourd'hui. Donc on doit garder ces banques locales en fonctionnement. Gardez les portes ouvertes, même si elles sont en banqueroute. On va les reconstruire. On va créer du capital en termes de crédit à long terme pour ces projets qui sont nécessaires à la nation et reconstruire le capital financier réel de ces institutions bancaires. Parce que les communautés dépendent de ça, du prêt des banques, pour plein de choses, directement ou indirectement. Et on prend cette approche.
Just think of what that means. It's this.
On pense à ce que ça veut dire. On va refaire travailler les gens. Regarde les grands projets qu'ont lancé Roosevelt. Augmenter la productivité par habitant, par kilomètre carré. Et c'est là où on va aller, où on doit aller. Un engagement pour revenir à ce système de crédit, et on ne fera jamais ça sous un système monétaire, je l'ai dit. D'emprunter de l'argent à des banques, à des financiers privés, qui n'ont pas intérêt à ce qu'on développe ces projets. Donc on va arrêter tous ces plans de renflouement des banques. On prend les institutions qui sont en banqueroute, et je vais faire ça avec une commission du style Pecora. Et je peux vous le prouver. On peut prouver qu'avec ce type de commission, dans les faits, ces gens vont devoir rendre l'argent. Et on va surtout prendre l'argent très loin de leur poche. Ils ne devraient pas l'avoir. Parce qu'ils ont fait une fraude contre les États-Unis. Contre nos institutions. On va les mettre en prison, ce genre de choses. Et on va reconstruire ce que ces gens ont tout simplement détruit. Comme je l'avais dit, le 28 juillet 2007 déjà. C'est une escroquerie. Les plans de renflouement Barn et Frank, c'est des fraudes. C'est maléfique. C'est fait sur la base de la cupidité, pas sur la base de la corruption. Et on va prouver ça. Avec une commission Pecora honnête, il n'y aura pas une personne aux États-Unis qui ne voudra pas pendre ces gens s'ils ne sont pas pendus déjà eux-mêmes, malheureusement. Pour ceux qui écoutent cet événement historique retransmis par Internet, on peut prendre des questions par Internet, je le répète. On va essayer de faire passer ces questions maintenant ou plus tard. Et la prochaine question, Monsieur Larouche, encore une fois, de gens qui sont impliqués dans l'équipe de transition du futur président Obama. Monsieur Larouche, je pense que nous sommes tous d'accord qu'on doit faire étape par étape pour mettre fin à cette situation financière. Mais les faits restent. On a besoin que l'économie réelle, réelle augmente et les salaires également aux États-Unis par la création de jobs, de boulot. Et le fait est que et le jeu que j'utilise vient de plein d'économistes très éminents dans le monde. Comment créer un maximum d'emplois et augmenter les salaires en même temps? Est-ce qu'on se rappelle le plus dans les années 30, c'est ces grands projets d'infrastructure qu'a lancé Roosevelt. Des millions de gens employés à construire des routes, des barrages, etc. Mais le programme de création de boulot du New Deal n'a jamais été assez puissant vraiment pour faire face à la Grande Dépression. Et comme notre économie est en dépression aujourd'hui, on doit pousser et être, mettre la question du déficit budgétaire sur le côté. Et de ce point de vue-là, Roosevelt a été très précautionneux, a pris beaucoup de précautions. Il a réussi à recréer des millions d'emplois, mais pas à recréer le niveau qui avait été avant la Grande Dépression de 1929. Et la question du déficit budgétaire est lui retombée dessus à l'époque. Comme tu dois t'en rappeler, il y a eu une récession assez sévère qui a limité tous les progrès qu'avaient fait les États-Unis jusque-là. Et tous ces grands projets qui ont été lancés pour la Seconde Guerre mondiale, et c'est simplement la mobilisation pour la guerre qui a mis fin à cette dépression. Et je pense que le succès limité de Roosevelt au niveau du New Deal, aujourd'hui, on doit être beaucoup plus courageux que lui en termes de création d'emplois. Et ce que ça veut dire réellement, c'est qu'on doit arrêter cette augmentation du déficit budgétaire. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des centaines de milliards de dépenses qui sont faites aujourd'hui. Et mon estimation est qu'on devrait dépenser au minimum 800 milliards de dollars par an, simplement en création d'emplois pour achever une reprise économique. C'est énorme. Et ça va créer un déficit sans précédent, c'est hallucinant. Mais je pense que ne pas le faire, c'est vrai que c'est plus terrifiant encore. Donc ma question, est-ce que tu es d'accord? Et est-ce que tu t'y inquiètes du déficit fédéral? Ou alors c'est quelque chose où on ne devrait pas s'inquiéter dans ces conditions? Il y a certaines remarques, je suis d'accord avec certaines remarques que tu as faites, la création de plusieurs, peut-être 1 000 milliards pour rien que consacrer rien qu'à la création d'emplois, ça c'est sûr. Je pense que c'est plus que nécessaire. Je pense que oui, on doit le faire. Mais l'erreur, je pense, est dans certaines suppositions et de critiques que tu fais sur Roosevelt. Rappelle-toi, le jour après Pearl Harbor, beaucoup d'organisations d'extrême droite aux États-Unis qui n'aimaient pas Roosevelt, ils craignaient Roosevelt, le voyaient comme une menace. Roosevelt était décidé à mettre fin au régime d'Hitler qui avait pris les pleins pouvoirs avec l'incendie du Reichstag. Quelques jours avant que, l'année où Roosevelt avait pris son pouvoir. Donc, à Wall Street, le pouvoir de l'argent, qui soutenait en masse Hitler, Mussolini, le président des États-Unis, comme aujourd'hui d'ailleurs, Bush est quand même le petit-fils de ceux qui ont sauvé le parti nazi de la banqueroute pour qu'il puisse devenir dictateur en Allemagne. Et Prescott Bush était un des plus grands supporters de Hitler. Même après Pearl Harbor pour celui-là. Ce qui s'est passé, c'est que cette bande de fascistes, comme Prescott Bush, opérant avec les Britanniques, avait pris contrôle des États-Unis, avait pris le contrôle depuis l'assassinat de McKinley, en fait, au début du siècle.
The head of the British Intelligence Service for the Connecticut States, based in London, was the guy who trained Teddy Roosevelt.
Et les gars qui a entraîné Teddy Roosevelt, qui était président à cette époque, après McKinley, était un agent britannique directement. Son conseiller avait été le dirigeant des services secrets britanniques directement. Il a fondé le Ku Klux Klan. Il a organisé depuis la Maison Blanche la réorganisation du Ku Klux Klan aux États-Unis. Ça, c'est la pestilence qu'il y a eu aux États-Unis dans les années 10, 20 et 30. J'ai vu ça, moi, quand j'étais dans mon service militaire dans les années 30 et 40, dans les années 40. C'était des gens très puissants. Mais ce qui s'est passé, regarde juste après Pearl Harbor, les mêmes organisations d'extrême droite, tous centrés à Wall Street, tous centrés à Londres, tous des alliés britanniques, qui étaient tous pro-fascistes, pro-Hitler ouvertement jusqu'à cette période. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé leur adresse. Ils ont changé leur adresse réelle, en fait, à l'époque, ces lobbies d'extrême droite aux États-Unis. Ils ont juste changé d'adresse, mais ils existent toujours aujourd'hui. Et ce qu'avait à faire face Roosevelt, si tu te rappelles bien, c'est de remettre les États-Unis dans la direction qu'avait lancé Lincoln, après Lincoln, une réorientation pour aller retrouver des alliés à l'extérieur, nos alliés majeurs. Otto von Bismarck, le chancelier de Germanie, d'Allemagne à l'époque. Et c'était sous l'influence des États-Unis de l'époque que lui s'est fait et a lancé sa mobilisation sur la base d'une relance, d'une économie pro-industrielle qui a fait de l'Allemagne une grande puissance à l'époque. C'était sous l'initiative de Bismarck. Et il s'est fait jeter par le prince Édouard. Il s'est fait jeter dans le but d'avoir la Première Guerre mondiale. Comme il avait dit lui-même que les Anglais préparaient une nouvelle guerre de 7 ans. Et McKinley, à l'époque, était président américain, en 1901, s'est fait assassiner également aux États-Unis pour pas que cette tradition se développe. Il y a eu un changement d'une politique américaine qui avait été lancée par Lincoln de coopération avec l'Allemagne et la Russie. Alexandre II et III. L'organisation du Trans-Sibérien a été faite dans cette produit de l'influence américaine de Lincoln à l'époque, avec nos alliés en Russie et en Allemagne. Mais c'est ce qui s'est passé par l'assassinat de McKinley. On a changé complètement. Et on a lancé la chasse aux sorcières contre les immigrés allemands en France, aux États-Unis. Et on est devenu l'allié des Britanniques à l'époque contre l'Europe. La faction d'extrême droite aux États-Unis, représentée par Teddy Roosevelt et compagnie, ont dominé comme une organisation pro-fasciste ouvertement, pro-Mussolini, puis pro-Hitler. Et c'est ça qu'on a combattu, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ça le problème de Roosevelt. Un groupe d'extrême droite, jusqu'à aujourd'hui. Des lobbies, c'est des bâtards d'extrême droite comme il était à l'époque. Et ça, c'est notre problème. Et c'était le problème auquel Roosevelt devait faire face. Et les États-Unis savaient. Le service savait. service secret. Jusqu'en 1936, que la politique officielle, que le Japon allait conduire une attaque contre les forces navales américaines dans un plan de guerre, le Japon était d'organiser une attaque sur Pearl Harbor. C'était les plans qui étaient déjà créés dans les années 1920. Et à un certain moment, pour des raisons spécifiques, particulièrement l'invasion de la France par l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques ont décidé qu'ils allaient défendre leurs intérêts en se rangeant du côté, en fait, des États-Unis, alors que jusqu'alors, ils avaient soutenu ouvertement les partis fascistes en Europe. Donc ils ont changé leur style avec l'attaque de Pearl Harbor. Et l'extrême droite américaine, c'est pareil. Parce que les Britanniques avaient choisi de s'associer momentanément à Roosevelt. Mais ils ont juste changé leur nom, ils ont changé d'adresse, mais ils sont quand même restés existants, ces gens-là. Et centrés à Wall Street. Et on a la même chose aujourd'hui. C'est l'ennemi auquel on doit faire face. C'est le problème que nous avons. Qu'est-ce qu'il a fait, Roosevelt ? Il n'a pas fait des petites choses à droite et à gauche. C'était l'ensemble des militaires américains, des généraux américains, des gens dans les services de renseignement qui ont préparé cette guerre contre Hitler, pour défendre non seulement les États-Unis, mais aussi arrêter ce plan de Pearl Harbor qui avait été mis en place par les Anglais et les Japonais dans les années 20. Donc ils ont organisé ce qu'on appelle l'opération Harry Hopkins dans les années 30. Et Roosevelt opérait avec la commission Pecora et autres. C'était contre ces gens-là spécifiquement, britanniques, qui contrôlaient l'économie et la politique américaine, et encore jusqu'à aujourd'hui. Donc ces faits sont vrais. Il a été restreint. Et il était conditionné par des menaces de forces diverses et variées dans les années 30. Mais il a agi sur la base de plans qui avaient été créés par les militaires américains, incluant le général Mitchell, avec des préparations très très précautionneuses pour faire face à toutes ces menaces. Ce qui s'est passé sur ces questions financières, moi j'avais 26 ans après la Seconde Guerre mondiale, j'ai vu ces choses-là. On a eu une transformation dans la production, dans les capacités productives. Il faut le voir d'un point de vue physique. Et la différence avec nous et les nazis, alors que l'Allemagne à l'époque avait une capacité militaire qui était supérieure à la nôtre. Mais ce qui s'est passé, mais à la fin de la guerre, eux, ils avaient quelques kilos de matériel, et nous, on en avait des tonnes. On n'a jamais produit autant dans aucune nation du monde, par habitant et par kilomètre carré, que ce qu'avait fait Roosevelt. Et Truman était de l'autre côté. J'étais là. Et Truman a détruit notre potentiel de transformer tout ça, ce potentiel qu'on avait créé pour la guerre, pour le faire pour la paix. Et on a commencé une récession dans les années 48. On a commencé à détruire les capacités de production après la Seconde Guerre mondiale. Mais Roosevelt, lui, avait l'intention de mettre fin à l'Empire britannique après la Seconde Guerre mondiale. Parce que lui savait qu'il n'y aurait pas les États-Unis d'Amérique s'il n'y avait pas la fin de l'Empire britannique. Ça, il le savait, depuis toujours. Et on a perdu nos capacités sous Truman, la trahison de Truman. Et lui, il faisait partie de la faction d'extrême droite dont je parlais. Il nous a trahis. On a perdu nos capacités de faire ce qu'on avait à faire. Après, on a vu ça se réfléchir un petit peu avec ce qu'a fait Eisenhower, Kennedy, programme spatial, etc. Mais si vous regardez bien, on a été ruiné, étape par étape.
1968, that fiscal year. You look at the figures, the physical
figures. Depuis 1967-68, regardez les statistiques, les preuves physiques. On est depuis 67-68 à un taux négatif de capacité physique. On a perdu nos capacités industrielles. Tout ce qui avait de la valeur sur 25 à 50 ans a disparu. Et on a été dégénéré chaque année depuis 1967-68. Donc aujourd'hui, on a atteint un niveau où le taux d'hyperinflation dans ce qu'on appelle les marchés des produits financiers dérivés et l'effondrement de la capacité physique de production, le commerce physique, le système est terminé là. Et nous sommes terminés. Le monde est terminé si ça continue. Je pense que ce que tu as dit à la fin, c'est juste, sauf que tu es un petit peu modeste. Ce que je veux, c'est 2000 milliards de dollars dans la création de jobs. On doit faire plus que Roosevelt. Pas pour la guerre, mais dans les infrastructures économiques de base à l'échelle internationale. Et ça va être énorme. Donc on doit le réguler. C'est pas juste lancer la monnaie à l'extérieur et voir ce qui se passe. On doit le contrôler sous système de crédit. Système de taux de change fixe. On doit replanifier notre économie. Planifier nos échanges, le réguler. Négocier les choses.
And I think in our records of our history, you find people in the diplomatic field and others who in the past have understood how to do this.
Et je pense qu'aujourd'hui, on a des gens qui peuvent comprendre ça dans les milieux diplomatiques et autres. On peut revitaliser leurs qualifications et les mettre au boulot pour ce type de choses.
Okay, this is
okay. Une autre question de l'équipe de transition sur la question des emplois et des infrastructures.
Cause some excitement. The questioner says, Mr.
La question de M. Larouche, l'un des plus gros programmes, si on veut sauver cette économie, c'est de trouver assez de projets de création d'emplois et assez rapidement. Et le type de programme qu'ont fait Roosevelt, dépenser de l'argent pour les routes, les écoles ou d'autres types d'infrastructures de base, sont, c'est clair, les outils les plus efficients pour créer la richesse et des emplois. Mais les États-Unis ont probablement
worth of such projects that are shovel ready right now.
And what a déjà des engagements financiers dans plein de projets.
Start in 6 months or less.
Et je ne sais pas si on pourra commencer ça dans les 6 prochains mois. Donc une question, c'est que on doit être créatif. On doit trouver d'autres manières pour pousser les fonds dans cette économie physique. Et autant que possible, on veut dépenser de l'argent qui ont de la valeur physique, comme les ponts, les ports, les routes, pour faire une nation meilleure. Mais il y a d'autres choses qu'on doit regarder. Augmenter l'infrastructure Internet, la grille électrique, améliorer la technologie de l'information dans plein de secteurs qui est crucial pour des réformes également dans la santé. Arrêter les coupures de budget aujourd'hui dans tous les secteurs hospitaliers ou autres. Donc ce qui nous semble, c'est si on fait ça, c'est que si on dépense tout cet argent en même temps, ils auront un double devoir. Fournir des emplois et des revenus à des gens. Et le type de boulot auquel on se réfère, qui ne sont pas définis comme des infrastructures solides, comme les technologies de l'information ou autres. Mais je pense que tu as été très sceptique à propos des bénéfices de la création d'emplois dans ces technologies. Est-ce que tu peux commenter là-dessus ? Donc, on doit continuer à parler de ça. On doit arrêter de parler de ça en termes monétaires, plutôt qu'en termes physiques et scientifiques. C'est une erreur sérieuse. Le type d'emplois qu'on a créés dans le passé sont des emplois qui créent de la richesse. Et les emplois qu'on a créés les 30 dernières années dans certains secteurs technologiques n'ont apporté aucun gain physique par habitant. Combien de réacteurs nucléaires de quatrième génération êtes-vous prêt à construire aujourd'hui pour la production?
Si vous
utilisez des densités énergétiques très faibles, ce qu'on appelle les sources vertes d'énergie, ça c'est la merde. Si vous voulez un bénéfice de l'énergie solaire, laissez les plantes faire, ça c'est bon. Et ces gens sont idiots à un point inacceptable, cette révolution verte. Prenez la chlorophylle. On va les décrire d'un point de vue simpliste. La chlorophylle est une molécule. Il y a une longue queue, disons, comme une antenne, une tête, avec du magnésium à l'intérieur de cette tête. Et qu'est-ce qui se passe? Ça prend la lumière du soleil, les radiations du soleil, qui sont capturées par cette queue. C'est l'ensemble de ce groupe de manicules qui bossent ensemble. C'est pas sexuel, hein, je vous rassure, mais ça travaille ensemble. Ce qui se passe, et ça, c'est un taux faible d'énergie, de densité énergétique. Parce que quand le soleil arrive sur la Terre, il n'y a pas beaucoup de densité énergétique. Mais si vous voulez quelque chose de bon avec le soleil, faites pousser des plantes avec le soleil, ça c'est tout ce que vous pouvez faire. Et des buissons, qu'on dit bush en anglais, les buissons, mais pas le George Bush qu'on connaît. C'est ce qui se passe. C'est que la chlorophylle transforme la radiation solaire capturée par l'antenne et la transforme en une énergie de densité énergétique supérieure. Et c'est cette augmentation de la densité énergétique qui se passe dans un processus normal pour rafraîchir, en fait, l'environnement. Pour la vie humaine, végétale, c'est ce qui se passe. Donc là, ta mesure, ce n'est pas les calories. Les calories, c'est ce que tu portes sur toi et on peut voir si tu en as beaucoup, si tu es très gros ou pas. Donc, on veut aller à des niveaux de densité énergétique supérieurs à ceux produits dans la nature. Avec l'énergie solaire, tu produis des déserts. Voilà. Trop de chlorophylle. Voilà, c'est comme ça que tout le cycle planétaire est organisé, avec cette chlorophylle. Là, la question c'est que je me pose, c'est est-ce que tu veux un désert, hein, en utilisant toute l'énergie solaire, au lieu de la laisser pour la nature, et arrêter cette collection de radiation solaire, c'est malsain. Il n'y a pas d'alternative verte à la situation dans laquelle on se trouve. Aucune. Si vous ne voulez pas l'énergie nucléaire, vous sortez et vous commettez tout de suite un suicide. Et tuez vos voisins avec. Vous voulez tuer vos voisins? Soyez contre le nucléaire. Très bien. Ça, c'est ça. Donc, c'est la question de la créativité fondamentale. Et le problème, c'est que la plupart des économistes et la plupart des institutions économiques ne savent pas ce que c'est que la créativité. Ils n'ont jamais compris la science de la créativité, de la science physique de ce point de vue. Donc le secret de l'énergie, de la puissance, c'est l'énergie de densité de flux énergétique. Et avec les hautes températures, on peut augmenter cette densité énergétique comme jamais, on ne pourra jamais le faire avec une autre énergie, les gaz naturels ou autres. Et ça, c'est ce dont on a besoin. Et on augmente les capacités de production du travail de cette manière. Ça, c'est la manière d'avancer. Et si vous voulez, donnez-moi l'industrie automobile. Laissez-moi la réorganiser. Un système national de transport par train à lévitation magnétique. On va aller sortir les gens des autoroutes, on va sortir les gens des embouteillages, qui est une perte de temps dangereuse, qui plus est, et on va leur faire construire des centrales nucléaires, beaucoup. Et vous allez avoir un investissement en capital qui va transformer votre économie. On sait comment le faire. On va améliorer même l'environnement. On va améliorer le système d'eau. La désalinisation de l'eau de mer. Prenez les déserts de l'Ouest, les déserts. On va les sauver. Au Mexique également. On va changer l'environnement. On va augmenter les capacités de production des gens par habitant, par kilomètre carré. Et ça, c'est la créativité qui est spécifique à l'être humain et pas aux singes, aux chimpanzés. Comment tu penses que... Est-ce que tu penses qu'un être humain, c'est juste un chimpanzé Donc, comment on est passé d'une population de quelques millions à 6,5 milliards d'êtres humains avec la créativité, le pouvoir créateur de l'esprit humain appliqué au développement de la société, à l'augmentation de la capacité de production par habitant et kilomètre carré. Tout ça implique des projets scientifiques et l'amélioration technologique. Et l'intensité capitalistique est générée par ce seul secret qui est la créativité. Et employer les gens pour juste les employer, ce n'est pas de l'économie. Je regarderai toutes les civilisations qui ont été contre le progrès technologique. Tu peux regarder où elles ont terminé. On n'a pas d'autre choix. L'avantage de la civilisation européenne, et particulièrement après le traité de Westphalie, mis à part les moments où on a été déstabilisé par l'Empire britannique et les guerres, c'est que la qualité des êtres humains a augmenté comme jamais on l'a vu nulle part dans l'histoire de l'humanité. Et tous les problèmes qu'on a et qui sont divertis de cet objectif précis sont inutiles. Et il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus idiot que ces anti-nucléaires, anti-technologies sont instrumentalisés. Parce qu'on a besoin de ce type d'investissement, on peut les faire, qui vont sauver l'humanité de la crise terrible dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.
Thank you, Lynn.
Merci, Lynn. Pour tous ceux qui ont soumis des questions qui ont trait au propos des boulots verts, etc., je pense que Monsieur Larouche vient de répondre suffisamment. Donc je vais bouger, passer à une autre question sur la loi de politique intérieure. Sur la question de la commission Pecora, c'est une question de l'équipe de transition.
The issue of spending outside of spending for job creation. The questioner says, Mr. LaRouche, one of the things that we
voilà la question. Monsieur LaRouche, une des choses que nous avons discuté ici,
we can do well by doing good. And let me explain what I mean by this.
C'est qu'on peut faire bien en faisant le bien. Laissez-moi expliquer.
Hardest by the current economic crisis are the long-term unemployed, families without health insurance,
on a des chômeurs de long terme, on a des familles qui n'ont plus de couverture sociale,
etc. And thereby, aid to them helps sustain the economy as a whole. Again, aid to the distressed, enhanced unemployment insurance, food stamps, health insurance subsidies.
Et tout ce qui c'est les indemnités chômage, les bons alimentaires sont importants. Et c'est de faire partie d'un plan économique à court terme. Bien sûr, ce n'est pas suffisant. Pour répondre à l'effondrement des dépenses, en général des particuliers. Mais ce serait aussi bien de diminuer les impôts pendant un premier temps.
Both because it's the fair thing to do.
Ce serait juste de le faire et aussi parce que ce qu'on donnera aux gens, les gens le dépenseront.
En posant
cette question, je sais très bien que ce n'est pas avec des diminutions d'impôts qu'on combat une crise économique, ni avec des bons alimentaires, des tickets alimentaires ou ce genre de choses.
Than infrastructure spending, and there certainly is no guarantee that consumers will spend their tax cuts or their rebates.
C'est vrai qu'on n'a pas de garantie sur ce que vont dépenser les gens et sur quoi ils vont le dépenser.
$300 billion in this area, to compare with spending of approximately $200 billion in what we would refer to as public works. However, we've been forced to address this. Because any move to aid these distressed Americans elicits a response, especially from Capitol Hill, and we should be clear.
Mais nous pensons que c'est important de le faire.
Republicans and Democrats, that such measures are inflationary and will cause more problems.
Il y a des gens qui nous disent que c'est inflationnaire comme mesure. Mais
is really born more out of a refusal to accept.
Nous pensons que cette attitude, c'est surtout un refus d'accepter la réalité, par exemple de l'inflation ou de la souffrance de ces gens.
Because it is a real issue of how much we can spend to help people.
On te pose la question pour savoir de quelle manière on doit aider les gens. On peut. Vous savez, je suis un économiste. Et en général, tout ce qu'on appelle économiste ne l'est pas vraiment. Le problème, c'est de penser en termes de ce que les gens dépensent. Ça ne compte pas. Par exemple, prenez un système de transport rapide. C'est bien meilleur de rendre gratuit que de demander aux gens de payer.
For example, in New York City, when the transportation system was very cheap, you know, the nickel.
C'est par exemple à New York quand il y avait besoin juste d'un centime pour voyager en métro, c'était beaucoup plus simple. Et le système était massif. Si vous voulez améliorer l'économie,
cut out the fares.
Il faut couper les éviter les dépenses, que les gens dépensent de l'argent pour cela.
Was the factor which tilted the system in favor of losses. If you have a completely free system where people just walk on as to a sidewalk and walk into a public transportation system.
C'était complètement gratuit, les gens prendre le train, ça serait comme marcher sur un trottoir. Imaginez l'impact que ça peut avoir.
Just take the case of the public health care now, the public area of health care.
Imaginez la santé.
We used to operate with general hospital systems. And look what happened in New York City with Felix Rohatyn.
Avant, on avait un très bon système d'hôpital, mais regardez ce qui s'est passé par exemple à New York avec Rohatyn. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir un système où les gens arrivent à l'hôpital et on les soigne avant de compter le coût? Parce que c'est ça la santé publique, on se bat contre les maladies et on se bat pour que les gens soient en bonne santé, parce qu'on a besoin que la population soit en bonne santé. Et les hôpitaux permettent d'atteindre ce résultat. Et la question, ce n'est pas celle des dépenses, c'est d'avoir un système public qui accomplit cette tâche. Imaginez, un système d'eau potable pour toute une nation, est-ce que ce n'est pas moins cher que d'acheter des bouteilles d'eau? Est-ce que ce ne serait pas plus simple que les gens payent trois fois rien pour un système d'eau potable collectif plutôt que de tous aller dépenser des bouteilles d'eau? Donc ce n'est pas une question des dépenses. Et par exemple, pour le transport, on ne veut pas mettre les gens dans les embouteillages. On ne cherche pas à les mettre dans leur voiture.
We used to have, in my youth and young adulthood, a typical person working person, factory, whatever, would take 15 minutes to half an hour commuting at most, sometimes just by walking to work.
Prenez un travailleur, fut un temps, et tout travailleur était à 15-20 minutes, maximum une demi-heure de trajet de leur travail. Et c'est, on doit revenir à ça. Et si vous voulez atteindre ce résultat, si c'est gratuit, ce sera mieux. Mais le but derrière tout ça, c'est la productivité. Mais on a refusé cette idée parce qu'on est allé dans une société de services.
You have it imported from a great distance at great cost. It's a high price, you can't afford it, and so forth. So what we're doing in terms of our economic system, what has become customary, and as the questioner put it, when you describe the system in that way, you enter into a domain of insanity. But the insanity is the...
Le problème, c'est que dans ce modèle consommateur, on rentre dans des habitudes qui ne sont pas très saines.
As I go back to the nuclear power question, just think of producing 100 nuclear power plants a year, fourth generation, inside the United States.
Imaginez qu'on produise aux États-Unis 100 réacteurs nucléaires de quatrième génération par an. On peut très bien le faire. Et on donnerait aux gens des emplois très qualifiés. On pourrait avoir de la formation continue. On pourrait les engager pour bâtir des systèmes fluviales ou les rebâtir. On accroîtrait le pouvoir du travail en faisant ça. Et le pays pourrait accueillir plus de monde. Donc, ce n'est pas une question de dépenses, ce n'est pas une question d'argent. Arrêtez de penser comme des comptables. Les comptables aujourd'hui doivent prendre leur retraite. Oubliez
tout ça. Parce
qu'avec ces genres de petites mesures, on essaye de retarder les vraies décisions qui doivent être prises. Et ça, ça nous tue.
Okay, we're going to move on to deal with some of the questions that have come in regarding Mr. LaRouche's endorsement of a new PCORA commission.
Donc maintenant les questions qui touchent l'appel pour une nouvelle commission PCORA.
The question thought it important to address it in a public forum. He says, Lynn, one of the things that we're faced with when we talk about a PCORA commission style.
Lorsqu'on évoque une commission à la PCORA, on se rend compte qu'il y avait une différence structurelle entre le système d'alors et celui d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, la plupart des problèmes au niveau du financier viennent de l'extérieur des États-Unis. C'est un système international. Donc comment mener une telle enquête sans coopération internationale? Par exemple, nous savons que Londres, la City de Londres, refusera de coopérer comme ils l'ont fait jusqu'ici. Ce genre d'aspect empêche certaines personnes à Washington de soutenir cette commission PCORA, car ils doutent.
You know, there's a principle in society called leadership.
Ah, vous savez, il y a un principe dans la société très simple, ça s'appelle le leadership. Il faut des meneurs.
Society functions on the basis of leadership, and you know.
C'est ça qui fait marcher la société. C'est le cœur de la société.
In the area of creativity.
Le leadership.
I get the real question of leadership. To me, real leadership involves creativity.
Pour moi, le véritable leadership naît de la créativité individuelle.
You have people who have a populist culture of the type we have today. Like the so-called popular entertainment culture, all these.
Et dans une culture entre guillemets populaire, comme celle qu'on a aujourd'hui.
What's happened with the Beatles? We have all become Beatles.
Regardez la question des Beatles. On est tous devenus Beatles. On est tous dans des sous-marins jaunes.
Now, what the problem here?
Et au fur et à mesure, le standard culturel a diminué et on a dégénéré.
Realize that this stinks. And they're a threshold away from.
Donc on doit réaliser qu'on a un problème culturel. Et que c'est ça le problème derrière les décisions politiques à prendre.
And they say, I don't want to say that, I don't want to get in trouble. I got to keep my nose clean, I don't want to be in trouble.
Parce qu'aujourd'hui, lorsque ce genre de questions arrive, beaucoup de gens se disent « Mais j'ai pas envie d'avoir de problème, je ne vais pas trop me mettre de l'avant, parce que là, c'est quand même un peu gros. » Et ça, ça vient de la terreur de droite, la terreur conservatrice de l'Amérique d'après-guerre, à l'époque de McCarthy, où on a fait la chasse aux sorcières, où les gens se sont mis à mentir tout le temps, et à avoir peur tout le temps. Et tout ce que désiraient les gens au fond d'eux-mêmes, c'est d'être acceptés et de ne pas avoir de problème. Donc ils cherchaient à être populaires, ils ne cherchaient pas à dire la vérité. Parce que s'ils disaient la vérité, ils n'auraient pas été acceptés et ils auraient eu beaucoup de problèmes. Hé, dis pas ça, on va avoir des problèmes. Donc on est tombé dans un conformisme total. Regardez aujourd'hui, les gens qui disent « Ah, je ne crois pas dans les conspirations. » Ben, vous savez, vous ne pourriez même pas traverser la ville sans conspiration. Les gens qui ne croient pas dans les conspirations, on devrait les mettre dans des parcs.
We have people who are stupid. They become more stupid because they don't use their brains. But nonetheless.
Et le fait de refuser d'utiliser leur cerveau les rend
bêtes.
Mais certains d'entre nous, comme ceux qui ont posé des questions aujourd'hui, ils pensent. Donc c'est une pratique noble, très bon exercice.
Problem solvers. Not faddists who follow popular magazines.
Et ce qui est nécessaire dans ce genre d'époque, c'est-à-dire des gens qui résolvent les problèmes, qui n'ont pas peur de s'y affronter et qui n'ont pas peur d'influer, de peser sur les gens qui les entourent. Et le problème, c'est que les gens qui ont cette tendance sociale sont souvent fortement intimidés et dissuadés d'avoir cette activité sociale. C'est pas que les gens ne sont pas d'accord avec vous, c'est juste qu'ils ne veulent pas l'entendre. Parfois, quand quelqu'un prend la parole et dit ce que tout le monde sait mais que personne ne veut entendre, ça devient pesant. Mais finalement, c'est ça que les gens respectent. Et c'est ça qui fait bouger la société. C'est le leadership. C'est de mettre les pieds dans le plat et de bouger les choses. Et si vous faites ça, vous trouverez des gens parmi la foule qui vous soutiendront. Ce sera une petite partie, mais ils seront là. Parce qu'ils répondront à cette volonté de changement. Et le problème, c'est de vous chercher à être accepté, de toujours chercher à être d'accord avec tout le monde. Et la peur de choquer, ça c'est un vrai problème. Il faut avoir la volonté de dire la vérité parfois, même tout le temps.
Like scientific creativity is the epitome of that. Great scientific discoveries, and they are the leaders of society. They are the conscience of society. And those who say don't do it, don't upset your, you know, don't make enemies.
Et ce sont les personnes qui n'ont pas peur de briser les limites, qui sont la conscience de la société.
And people have to sit back who are serious, and I think many of the questions here, of course, are serious. Think back. Look. How much of this you're talking about is pure crap? How much of it is crap you're saying because it's what you think is expected of you by your peers? Or what will be tolerated?
Prenez du recul sur ce que vous dites et réfléchissez-y. Est-ce que vous ne dites pas ce que vous dites parce que vous êtes obsédé par ce que vont penser vos semblables? Parce que vous disent vos collègues? Et que c'est ça qui vous influence plutôt que de dire la vérité?
And I think a lot of the questioning comes in that direction. The questions come out about things that people have not been thinking about. Questions come up in the form of assuming that money is the magic of economy. And say, well, money works this way, money works that way. But then I look around and I go into factories and nobody's working. Money's all over the place, but no one's working. So the question here is one of creativity. Is the creativity there? Is the quality of leadership present with people who have the guts to stand up?
Donc, ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est d'avoir des dirigeants qui ont des tripes, qui ont du courage, qui n'ont pas peur de se lever.
Okay, Lynn, I have again on the question of the PCORA Commission. These are two questions, they're very similar. They came from slightly different sources. I'm going to read sections of both of them.
Deux questions très similaires sur la commission PCORA toujours. Je vais lire des extraits des deux, car elles sont très semblables.
It's a bad word, but it was the best one I could come up with. The first question says, Mr. LaRouche, I'm really more of a historian than an economist, but I've been asked...
Monsieur LaRouche, je suis plus historien qu'économiste.
And there are certain things about
mais j'y travaille un peu.
One is that the original PCORA commission not
pour la commission PCORA. La commission PCORA n'a pas seulement documenté des actions illégales des financiers, mais elle a permis d'ouvrir la voie à une législation ou une série de lois qui ont permis de mettre en place tout le système de régulation. Et ça, ça a été permis par le travail de fond de la commission PCORA.
that the current calamitous meltdown of our system is a national calamity, but that it's a natural calamity without any identifiable
cause. Aujourd'hui, alors, tout le monde est d'accord que c'est une catastrophe, l'effondrement économique. Il y a beaucoup de gens qui disent que bon, c'est comme une catastrophe naturelle. Voilà. Et donc ils pensent que ce n'est pas possible de trouver les coupables. Parce que c'est comme ça.
The nation really does have to be led step by step through all the machinations that led to the...
Donc il est vraiment fondamental que le pays, qu'on expose devant les yeux du pays comment cette crise, cet effondrement, cette situation en est arrivée là.
Very similar question from Capitol Hill. Again, from someone who is...
Ah, donc dans la deuxième question, c'est quelqu'un qui suit de très près le débat sur la commission Pecora. Il dit que la commission Pecora a montré comment JP Morgan et quelques-uns contrôlaient totalement l'économie américaine.
It built a constituency for FDR to do what he wanted to do.
Et que ça a bâti une base politique pour que Roosevelt puisse mettre en œuvre les réformes.
But there was a very big difference between then and now.
Mais il y a une très grande différence entre cette époque-là et maintenant. Parce qu'à l'époque, les gens croyaient qu'une économie agro-industrielle forte était la base de toute vie économique. Et la nouvelle commission Pecora doit non seulement mettre en accusation les nouveaux JP Morgan de l'époque, mais faire aussi comprendre aux gens que une économie agro-industrielle est vitale. Dans le sens, on doit s'attaquer en réalité à tout le système de libre-marché, à tout le système de mondialisation.
I didn't write the question. But I'm going to answer it. That's the problem. The objection, the qualification is the problem. The conditions today are worse than they were then.
Vous savez, les conditions actuelles sont pires qu'en 1929, 1933. Le niveau de vie de la population est bien plus bas aujourd'hui.
People have to confront is the fact that the idea of globalization and deregulation.
Et on doit montrer aux gens que la mondialisation, la dérégulation, ce sont la maladie. Et si on n'élimine pas cette maladie, si on n'arrête pas avec ça, c'en est fini de nous. Il faut abandonner vos préjugés ou alors votre vie. C'est le choix qu'on a.
Avec la globalisation et ces autres types d'alternatives au travail, à la production, à la skill. If you're going to do that, you're going to die, and you're going to die a horrible death.
Et si on prend quelque chose, si on choisit une alternative à la production et au travail, alors on mourra.
We'll say, I am determined to save society even against its own stupidity. Would you protect your children from jumping into a fire?
Et vous savez, est-ce que vous empêcheriez vos enfants de sauter au feu? Est-ce que vous êtes prêt à protéger les gens malgré leurs défauts et parfois leur stupidité?
Ça,
c'est une question de moralité. Et l'acceptation d'une chose comme la mondialisation, c'est ce qui tue la société. Et le fait même de pouvoir accepter cela.
That's the problem. And therefore, no, you have to go by productive values. And people who don't have productive values are of no use to society. In terms of
Donc aujourd'hui, il faut promouvoir les valeurs productives. Elles conditionnent toute approche politique.
Wall Street types who don't give a damn of what they do for society. It's
effective. Regardez les gens Wall Street aujourd'hui. Ils s'en foutent de la société. De leur rôle dans la société, des conséquences de ce qu'ils font pour la société, ils s'en foutent.
A parasite moves into a firm in a short period of time, takes over the firm, leaves with a golden parachute and leaves the people who had worked in that firm destitute.
Parce que regardez ce que Wall Street a fait. Ils ont pris le contrôle d'un tas d'entreprises et les ont fait fermer. Ils ont foutu les gens à la rue et eux ont pris un parachute doré. Mais comment on a pu accepter ça?
Et
à un moment donné, il faut mettre un peu une règle, il faut mettre un standard. Qu'est-ce qu'on cherche à faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire?
You're not going to get a change. If you don't get a change, you're not going to get a society. Right now, you've got to the point. Either you've got the guts to stand up.
Aujourd'hui, soit on a le courage de s'opposer à cette sorte d'opinion populaire.
Yes, that guy got $10 million for doing it. You got five. You got 10,000. He's just as big a criminal as he is, just not as successful at it.
Okay. Lynn, these questions came in related to the issue of the PCORA Commission, but they also address...
Toutes ces questions, encore, sont au sujet de la Commission PCORA, mais soulèvent d'autres questions également. Et toutes ces questions viennent de beaucoup d'endroits différents. D'abord, sur la question du trafic de drogue.
Between the illegal drug trade and the financial system.
Et sur le lien entre le trafic de drogue et le système financier.
The question is to whether or not this should be a target of a PCORA Commission investigation. It also.
Est-ce que le blanchiment de l'argent de la drogue doit être une des cibles des commissions PCORA?
From Latin America, particularly Mexico, and also here.
C'est des questions qu'on a reçues de Russie, du Mexique et aussi des États-Unis.
The cooperation of the international banking system to launder all of the money that comes from the drug trade.
Et tous soulignent que sans la coopération du système bancaire international pour blanchir cet argent, les trafiquants de drogue se seraient retrouvés
nus,
parce qu'ils auraient eu énormément d'argent en cash qu'ils n'auraient pas pu utiliser.
On the overall issue of the relationship between the illegal drug trade and the financial system, while I think many of us agree it should be thoroughly investigated, is this something that would come under a PCORA?
Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça doit être le sujet d'enquête. Est-ce que ça rentre dans le cadre de la commission PCORA ou est-ce que ça demande une approche, une procédures différentes, supplémentaires. Parce que ça, c'est un problème pour le monde entier. Et on ne peut pas éviter de le régler. En particulier pour la question du Mexique. Oh non, il n'y a pas deux catégories. Le trafic de drogue international est une partie intégrante du système financier.
I take the case of George Soros, for example.
Regardez George Soros.
How influential is George Soros politically in the United States?
Regardez l'influence politique de George Soros aux États-Unis.
Considering what he does. What about his influence on elections in the United States?
Regardez l'influence qu'il a eue sur les élections. Sur le leadership du Parti démocrate. Sur des membres du Congrès. Est-ce que ça, c'est pas de la corruption? C'est plus que de la corruption. C'est limite satanique. Et regardez la condition de vie des gens en Amérique du Sud ou au Mexique. Et où les gens sont victimes du trafic de drogue.
C'est hundreds of dollars. What is it by the time that drug that product of that reaches Europe or the United States?
Regardez un plant d'opium, par exemple, c'est genre $100 le pied dans le champ, et ça se transforme en milliers, en millions de dollars, en dizaines de milliers de dollars sur un marché commercial auprès du consommateur. Donc ça, c'est énormément d'argent, et ça détruit les gens qui sont impliqués dans cette chaîne, que ce soit les producteurs ou les consommateurs. Ça, c'est une menace stratégique pour l'ensemble des pays, particulièrement pour la Russie.
par exemple. Regardez l'activité de Soros en Russie ou par rapport à la Russie, avec ce qu'il fait en Ukraine. Et ce trafic de drogue lié à George Soros était une menace gravissime pour les grandes puissances. Il y a un seul pays en Amérique du Sud qui combat sérieusement la drogue, c'est la Colombie. Et aujourd'hui, la situation au Mexique et toute la drogue et les trafics d'armes qui ont lieu à la frontière mexicano-américaine sont une menace pour la survie des États-Unis. Et ça génère énormément de corruption, tout ce système. Et George Soros caractérise cela. Et ça, c'est la première chose dont on doit se débarrasser. Si on ne débarrasse pas du trafic de drogue, il n'y aura plus de vie civilisée. On doit se débarrasser de George Soros. Parce que ces réseaux-là, de Soros et de Lord Malloch Brown du Foreign Office britannique, engendrent les pires crimes par leur politique. On ne peut pas accepter ça. Et regardez l'effet de la drogue et de l'économie de la drogue sur la société, sur la vie des quartiers. C'est destructeur. Et la négligence de ne pas combattre la drogue nous a détruits.
The next question, Lynn, again, came in one form from one of the people who's working on the question of how to shape a PCORA commission in terms of the targets that should be looked at. But a related question came...
Toujours sur la question autour de PCORA.
...in the Republic of Belarus. So I'm going to read the first one and then the second one and let you deal with them together.
Je vais vous lire les deux questions.
The question of the oil markets. The question for
sur le marché pétrolier.
He says one of the things that we've been forced to confront here in the US is the way in which the oil markets have been essentially rigged via the spot market.
Le fait est que le marché du pétrole est contrôlé par le marché spot.
And this phenomena of the petrodollar market.
Et avec en même temps tout le marché des pétrodollars a inondé les États-Unis avec de la monnaie spéculative, issue de la spéculation.
Money has also been able to exert a considerable amount of control.
Et cet argent a permis d'assurer un contrôle du dollar depuis l'extérieur des États-Unis.
To address this and to
nous devons trouver un moyen de résoudre cela, car notre monnaie est devenue, dans ces conditions, sujette à des attaques.
From Belarus, the question is, Mr. LaRouche,
maintenant, une question qui vient de Biélorussie. Comme vous savez, M. LaRouche, les pays du Golfe se sont mis d'accord pour introduire une monnaie commune en
2010.
Ce jour-là, le Qatar, les Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït et l'Arabie Saoudite auront une monnaie commune. Est-ce que ça va retirer le pétrole de la sphère du dollar? Et si oui, quel impact cela aura-t-il sur le dollar et sur l'économie mondiale? Je vais d'abord répondre à la deuxième question. En 1973, le marché spot était une infime partie du marché.
Le marché était dominé par des contrats à long terme.
You had the sequence of 1971, the breakup of the fixed exchange rate system.
Mais avec la fin du système de Bretton Woods décrété en 1971, et 1973, où les Saoudiens ont fait un accord avec l'Empire britannique, qui dure depuis,
c'est
ce qu'ils ont fait dans cet accord. C'est de partager un fonds, une caisse noire, alimentée entre la différence entre le prix du pétrole dans le port de chargement et le prix à l'arrivée. Ça, c'est la plus grosse caisse noire, le plus gros fonds noir de l'histoire. Et ça, ça a permis de financer tout un tas de sales opérations.
This became the combination, the destruction of the power of the US dollar.
Et c'est cela qui a détruit la puissance du dollar. Maintenant, on arrive à la fin de ce cycle. Tout le système financier monétaire international s'effondre. Et cette proposition, qui voudrait regrouper les échanges autour de Dubaï, est une opération, c'est une sale opération. C'est une escroquerie basée sur un monopole. C'est un monopole qui est opposé à l'énergie nucléaire. Parce que si, depuis 1976, si on n'avait pas brimé les programmes nucléaires,
if that had not been done, you could not have had the development of the monopoly.
Aux États-Unis, on n'aurait pas atteint cette situation avec le pétrole.
Petroleum is a very cheap product and a source of extraction, especially from Saudi Arabia.
Parce que le pétrole, c'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher à extraire, en tout cas en Arabie Saoudite. Mais le coût vient du transport sur des longues distances.
So the increment of cost is largely located in the transfer and transport.
Parce qu'une matière qui est peu chère et qui est beaucoup transportée, ça, on multiplie son prix.
You now go to producing hydrogen-based fuels.
L'alternative, c'est de produire un carburant à base d'hydrogène. Et pour cela, il faut une économie avec une base énergétique plus dense. Avec la production de carburant au hydrogène par des centrales nucléaires, on n'aurait plus cette question des marchés spot. Parce que chaque région, chaque localité produirait son propre hydrogène.
This was a product of this change. Obviously,
et cette politique anglo-hollandaise, qui s'est unie avec l'Arabie Saoudite pour devenir un système anglo-saoudien, et également le système qui a engendré le terrorisme aujourd'hui. Donc pour en finir avec ça, on doit lancer un développement nucléaire massif. Et il n'y a que comme ça qu'on résoudra le problème.
Okay, we have time for two more questions. Lynn, this question is one that has been...
Lynn, cette question a été demandée dans différentes formes, sur tous les continents, littéralement. Dans un mouvement pour le développement en Russie, des gens qui sont concernés avec cette situation au Moyen-Orient également. Comment tout ça est relié à la situation immédiate, l'agression israélienne. Et ça, ça sort sous la forme d'une question qui est liée à qu'est-ce qui est réellement derrière ce conflit, la crise du gaz entre l'Ukraine et la Russie. Mais essentiellement, la question est, Monsieur Larouche, quel est le danger que les individus dans les individus dans les institutions au niveau international ont pas su empêcher le monde plongé dans un chaos, un code économique, et laisser se développer ce type de guerre chaude qui sont en train de se développer à vitesse grand V. Donc comment on devrait être inquiet de tout ça, de tout ce qu'a créé cette administration Bush avec tout ce qui se passe aujourd'hui. That's it, c'est ça. Vous voulez les vaincre? Vous voulez vraiment vaincre ces bâtards? C'est simple. Je le sais moi-même. Ce qui est en train de se passer actuellement, et Cheney est également impliqué dans cette opération en Ukraine avec George Soros. C'est les deux pires personnes sur cette planète. Cheney, Dick Cheney et George Soros sont impliqués. Donc il était, Cheney était déjà là-bas en janvier 2008. Il y a eu ce plan alternatif pour que Israël soit déployé pour une opération dans la bande de Gaza. Et même au-delà. Ça devait se planifier pour après l'élection de novembre aux États-Unis. Ça s'est passé. Les Israéliens étaient prêts depuis longtemps, en janvier. Les Britanniques en étaient très contents. Et ça a été fait via Dick Cheney, qui est plus un agent britannique, comme je le disais, qu'un patriote américain. Il est clé dans cette affaire. Et pareil, il est mêlé en Ukraine avec George Soros, qui a mis en place cette opération de déstabilisation. Donc Cheney est arrivé pour mener une opération contre la Russie, contre l'Europe. Et regardez, l'extrême droite en Ukraine est totalement contrôlée par l'argent de Soros. C'est ça qui se passe là-bas. Donc si ça continue, c'est un conflit généralisé. Surtout dans les conditions présentes, c'est imprévisible, incontrôlable. Mais vous parlez d'une menace, d'une guerre mondiale 3 ou 4. Ça, ce sont les implications. La Russie, son existence même, est mise en danger par ses opérations politiques. Et la menace contre la Russie, est-ce qu'ils vont réagir? Je pense que peut-être, oui. Et là, on peut avoir une guerre nucléaire, troisième du nom. Et on doit empêcher ça. Ce qui se passe à Gaza n'aurait jamais dû arriver, on le savait depuis longtemps, on aurait dû empêcher ça. C'est pas arrivé par surprise. On le savait déjà en janvier 2008. On savait que c'était sur la table. On a fait même des lois pour ça. Mais on n'a pas agi. C'était connu. C'était une opération britannique. Et ça arrive. Comme ça devait arriver en Ukraine aujourd'hui. Et c'était pareil, la prochaine cible, c'est l'Iran. Des missiles fabriqués sont transférés dans la zone de Gaza.
fires them at Gaza.
Après les lance dans la bande de Gaza. Et aussi contre Israël, on en lance. Qu'est-ce que vous pouvez faire?
We didn't stop it.
On l'a pas stoppé. C'était connu. Les services de renseignement américains étaient totalement au courant depuis longtemps. Pourquoi nous ne l'avons pas arrêté? Pourquoi cette administration ne l'a pas stoppé? Nous le savions. Nous savions que Cheney était impliqué dans cette affaire. On aurait pu l'arrêter. Nancy, Madame Pelosi a arrêté ça? Pas du tout. C'est là où les questions se posent réellement. Nous sommes dans une situation presque imprévisible au jour le jour. Mais peu importe les formes que ça prend, la fin est très mauvaise. Donc on doit agir très vite. La première chose qu'on doit faire, c'est de la mettre en lumière, mettre tout ça sur la table. On doit faire comprendre aux gens que ça pue, leur faire sentir que ça pue. Parce que sinon, ils ne réagissent pas.
Ok.
Avant que je pose la dernière question, je voudrais mentionner qu'on a plein de questions qu'on a reçues. On a aussi de Washington, ici, tout un groupe de questions que des gens ont soumis, mais qui demandent que ne soit pas demandé publiquement avant que le président Obama ne soit mis à la présidence des États-Unis. Mais toutes les choses dont nous avons discuté aujourd'hui seront réadressées dans plus de détails quand le 22, nous nous retrouverons encore ensemble à discuter de ces choses-là. Et que les gens écouteront nos discussions et on soumettra alors nos questions. Toutes les questions domestiques, intérieures ou internationales, il y aura d'autres sujets qui seront abordés à ce moment-là et on demandera à M. Larouche de répondre à d'autres questions plus spécifiques. Mais pour cet événement d'aujourd'hui, c'est une question qui vient de un groupe qui va bien au-delà que simplement la l'équipe de transition. C'est un membre senior des institutions de la présidence. Et il dit, Monsieur Larouche, comme tu le sais, pour beaucoup d'entre nous, donc le candidat élu n'est pas celui qui avait été décidé par la candidance, mais on est ensemble pour faire la politique, des options politiques, pour cette nouvelle administration élue. On doit dire que nous sommes optimistes. Et nous sommes optimistes, même si chaque jour semble amener plus de problèmes qu'on avait cru devoir faire face au départ. Donc, tu as contribué dans une grande partie en termes d'un point de vue spécifique et des idées dans leur ensemble, que ce que nous embarquions pour façonner la politique de notre nation qui est nécessaire désespérément pour notre nation. Mais ma question, c'est êtes-vous optimiste, vous, M. Larouche? J'ai insisté depuis pas mal de temps, plus sur cette présidence, qui arrive prochainement, que nous devons comprendre, nous-mêmes d'un niveau plus supérieur, au-dessus des talk shows de la réalité politique people et des médias, les rumeurs dans les médias. Les États-Unis sont uniques et très peu de gens le comprennent aujourd'hui, ce type de sujet, parce que la dynamique de l'histoire, les gens ne la connaissent pas. Et plus ils sont éduqués aujourd'hui, et plus ils sont éduqués à ne pas savoir la dynamique de l'histoire et ce qu'ils devraient savoir. Donc la présidence des États-Unis est un produit développé dans la civilisation européenne, dont la racine d'origine a été le Concile de Florence, au milieu du XVe siècle, qui a construit et développé l'idée de l'État-nation moderne et de la science moderne, associée en grande partie avec le travail énorme du cardinal Nicolas de Cuse. Et malgré la mobilisation et les guerres religieuses, les gens se sont mobilisés pour les éviter. On a eu, en 1630 environ, cette idée qui a commencé à émerger aux États-Unis, l'idée de Nicolas de Cuse qui a émergé aux États-Unis. Avec, il y avait la guerre dans les Balkans à l'époque, il y avait la chute de Constantinople, mais il y avait une grande transformation dans la science, dans la culture qui s'était produite au Concile de Florence. Et maintenant, c'est tout parti en vrille. Et toute l'Europe... Et a été détruite par les guerres entre 1492 et 1648, a été le reflet de cette décadence. Mais dans ses écrits, Nicolas de Cuse avait proposé que nous reconnaissions la corruption qui était à l'intérieur de l'Europe et qu'on devait regarder au-delà de l'océan d'autres gens et trouver d'autres droits, d'autres endroits, d'autres places au-delà de l'océan pour amener cette unification de l'humanité dans le sens de l'État-nation moderne, dans un but culturel commun. Et à la fin du XVe siècle, Christophe Colomb a fait ce voyage. Et avec tout un ensemble de coïncidences, il a... trouver les correspondances et rentrer en relation avec les correspondances de Nicolas de Cuse au moment où celui-ci était mort. Et il a écrit à l'époque, Christophe Colomb, aux associés de Nicolas de Cuse pour dire qu'on pouvait le faire. Donc il s'est engagé pour traverser l'Atlantique, trouver les gens de l'autre côté de l'Atlantique. Il avait une carte qui était son guide. Donc avec sa carte, il pouvait déterminer grâce au courant maritime que la zone d'abordage allait être située à peu près à la même latitude que, disons, ce qu'il y avait en Europe. Et développer les États-Unis avec cette intention de Nicolas de Cuse. Donc il y en a qui sont venus d'Espagne, ont bougé en Amérique du Sud pour essayer de développer cette idée, une république dont Nicolas de Cuse parlait. Et après vous avez mes ancêtres qui sont arrivés là-bas au milieu du XVIIe siècle. Et ils ont commencé à créer cette idée de la République qui venait de cette même tradition de Henri VII en Angleterre, qui est devenue la naissance d'une culture nationale construite au nord des États-Unis, dans l'Amérique du Nord. Et dans tout ce processus, et en Europe, il y avait toute l'émergence de la corruption promue par Paolo Sarpi, et le cas de l'Europe est devenu de plus en plus désespéré, même après la fin des guerres de religion. Donc, il y avait une dégénération totale, Antonal. Il y avait une brève renaissance après ce qu'avait fait le cardinal Mazarin et Jean-Baptiste Colbert en France. Mais malgré tout, Louis XIV et compagnie étaient tous corrompus, sont tous devenus des jouets du système anglo-hollandais et de la corruption promue par Paolo Sarpi.
that latter part of that 16th, 17th century. You had in the United States the development of the idea of a republic.
Donc, il faisait en même moment l'idée de la République qui se développe aux États-Unis, amener les meilleures contributions de l'Europe dans l'Amérique du Nord pour sauver la civilisation européenne qui était en train de dégénérer totalement.
So we in the United States,
nous, aux États-Unis, une culture basée sur le langage anglais, donc on a quelque chose de commun avec la culture anglaise. Regardez les poètes comme Shelley Keats avaient cet idéal républicain. Mais nous étions libres dans nos tendances. Mis à part les restes qu'on a vus aujourd'hui avec Wall Street, tout ça, mais on était libérés de ce système oligarchique qui contrôlait l'ensemble de la culture européenne de l'époque. Donc on représentait alors notre volonté de jouer notre rôle, de remplir notre destin, d'être les représentants du meilleur de la civilisation européenne à l'intérieur de l'Amérique du Nord. Et après, redévelopper ça dans le monde pour faire ce que voulait faire le Concile de Florence à l'époque, sous l'inspiration de Nicolas de Cuse. Donc on n'est pas simplement une extension de l'Empire britannique, on est quelque chose de plus. Mais comme on a été faible en nombre, comparé à l'Empire britannique depuis le milieu du XVIIe siècle, on n'a eu que des guerres avec les Britanniques. Parce que c'est devenu l'Empire, à l'époque, dans le pire sens du terme. Et nous, on était le point de résistance à cet empire, mais on a réussi à se battre et à se battre contre cette compagnie britannique des Indes orientales. Malgré tous les traîtres qu'on a eus aux États-Unis comme Aaron Burr ou d'autres. Mais continuellement, on a eu ces forces extérieures et en particulier britanniques qui ont essayé de détruire et empêcher cette idée de la République américaine. Donc on représente ceux qui partagent cette tradition, qui l'ont adopté, qui la partage. On est une chance pour l'humanité quelque part. Regardez ce qu'a écrit Nicolas de Cuse. De faire des liens partout dans le monde avec d'autres cultures. De faire une union d'États-nations souverains sur cette planète. C'est qu'il n'y a pas un pouvoir qui contrôle l'ensemble de la planète, mais c'est ce pouvoir créé par cette communauté d'États-nations souverains. Aujourd'hui, regardez les États-Unis. Parce que nous, ce qu'on représente, c'est quelque chose de plus. Dans nos institutions, on représente quelque chose qui est quelque chose qui peut sauver l'humanité dans son ensemble. Hein? Mais le président qu'on a n'est pas aussi débile, stupide, que ce cochon que nous avions précédemment. Il y a des mauvais démocrates, ça c'est clair. Mais on représente quelque chose de quelque part de extrêmement puissant. C'est pas simplement un parlement, avec etc. C'est un système présidentiel. Et le Congrès n'est juste là que pour faire fonctionner les mécanismes de notre présidence. Nous sommes dans un système présidentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas simplement le président. C'est les individus autour du président. Qui sont autour du président. Mais comment fonctionnent ces individus? Ils fonctionnent sur la base de toutes sortes de gens, d'advice, institutions de gouvernement. Donc les institutions du gouvernement, des institutions à l'extérieur du gouvernement. Moi-même, je joue un rôle dans ces institutions de la présidence. Plein de gens comme ça. Et on forme une communauté quelque part. C'est pas qu'on est tous d'accord sur tout ensemble, mais on fait une communauté, un processus, ce qu'on appelle la présidence américaine. Et c'est une organisation vivante. C'est pas juste la présidence de M. Obama ou de M. Intel ou de M. Intel. C'est caractéristique de nos institutions, de nos nations. Et ça, c'est tous les gens qui partagent, notre vraie tradition partage cette présidence. Ils forment la façon de penser du président. On a des individus dans ce processus. On a Barack Obama, élu président, en espérant qu'il ne se fasse pas assassiner. Donc la présidence Obama est en train d'arriver. C'est pas la présidence Obama, c'est sa présidence. Les gens qui l'entourent sont là, sont en train d'arriver à existence. Tous les facteurs qui seront dans la présidence, s'ils convergent comme un processus délibéré pour essayer de sauver cette nation, pour remplir sa mission réelle, et moi, ce qui me concerne, est que Barack Obama reconnaisse ces institutions de la République qui sont au-dessus de lui et répondent à ces institutions dans les termes que je viens de décrire. C'est pas sa décision, c'est pas sa réaction. Et sa responsabilité d'être un agent dans ce bureau de ce qui doit être fait pour les personnes qui sont dans ce bureau. Et comment on fait que les gens fassent ça? Je ne sais pas si on a fait la... Je ne sais pas si on a pris la bonne décision. Je ne sais pas s'il aura assez de jugement, d'expérience, on verra. Sur ce que va être sa mission. Il peut faire de grandes erreurs. La question fondamentale, est-ce que la présidence des États-Unis va fonctionner avec ce président comme ça devrait l'être? Et là, prier pour que cela arrive. Je sais que tous ceux d'entre vous, je voudrais que tous ceux d'entre vous qui nous suivent me rejoignent pour féliciter M. Larouche pour ce qu'il a fait les derniers mois en particulier. Et je sais qu'il va jouer un rôle critique encore dans la crise qui arrive et qui est en cours. Donc cet événement historique arrive à sa fin. Et j'imagine que je vous reverrai tous la semaine prochaine à la même heure, le 22 janvier, pour un nouvel événement historique. Merci à tous.